Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Podval du cast de rentrée. Vous savez bien que ce Podval a été enregistré avant les vacances puisque vous êtes des auditeurs attentifs du Podval du cast et vous savez que ce podcast est enregistré juste avant le podcast précédent. La dernière fois, on s'était consacré au tournoi Lurneval Tournament. On était fatigués, on n'avait pas mangé, on revenait d'un Val Mythique. Là, on a la pêche, on a la patate et nous sommes avec une guest star via Skype. Il s'agit de Darky. Darky, ça va la pêche ?
Salut tout le monde, ça va, la pêche, la patate.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette personne a la fibre optique, c'est-à-dire qu'il est fluide, on l'entend bien.
Il vit dans le futur à l'avance, en fait.
Nous sommes également avec Maxime. Maxime, ça va?
Bah oui, toujours. Moi, je me suis remis, j'ai plus de la voix qui tremblote, j'ai plus les mains qui flageolent, donc
exactement.
Ça va.
Et nous sommes avec notre ami Milaz.
Pierre. Salut tout le monde.
Ça va?
Impeccable.
T'as bien mangé, t'es bien reposé?
Ouais.
Tu es prêt à défendre les Austéniens?
Mais complètement.
Et nous sommes également avec Morgane, la petite voix de Morgane que nous entendrons sporadiquement.
Coucou.
Voilà, via, parce qu'elle n'a pas de micro personnel. Il va falloir être sympa et lui passer le micro. Non. Paraît-il, elle n'a pas trop d'arguments pour ce podcast. J'en doute.
Mais disons que plus on a de mauvaise foi et mieux on sera.
Tout à fait, exactement. Alors, le thème est le suivant. On a déterminé la dernière fois qu'il y avait deux types de rencontres de Val possibles. La rencontre, comme on l'a appelé, qui est une initiation au Val avec plusieurs personnes où on va passer finalement une après-midi à initier des gens au Val, faire des petits tournois qui comptent pas, etc., s'amuser en fait pour apprendre à des gens à jouer au Val, avec disciples et maîtres. Ça, c'est le premier type. Et puis, des tournois. Et puis, on a défini en termes de tournois, trois types de tournois différents qui font finalement dépendre des trois variantes principales de Val.
L'Austen fait de la merde !
Silence !
Ça commence.
Voilà, donc Flavie, reine de la digression, vient de faire... Et puis elle est repartie. Elle arrive, elle gueule dans les micros, puis elle repart. C'est bien.
Moi, j'appelle ça la provocation.
On avait déterminé... donc.
Moi, j'appelle ça le destin.
Il y avait trois types de tournois possibles. Le tournoi en Val narratif, qui est un tournoi bien particulier avec ses propres modalités qu'on laisse de côté pour ce podcast, bien sûr.
Oh.
Le tournoi en mode Antares normal, avec ses avantages et ses handicaps que nous allons laisser de côté dans ce podcast, bien sûr, pour nous consacrer à un tournoi, le tournoi le plus compétitif possible, c'est celui de l'Austen. Et déjà, l'idée que l'Austen ou que ce type de tournoi en Austen puisse être les plus compétitifs possibles est contestée. Donc aujourd'hui, le podcast, c'est est-ce que pour faire des tournois entre compétiteurs, pour la compétitivité, je ne sais pas comment le dire, pour la plus grande compétitivité possible, il faut jouer en Austen. Ça va être la foire d'empoigne, ce podcast.
Et est-ce qu'on est toujours dans le Val on joue uniquement sur la compétitivité?
Absolument. Alors, il va y avoir des batailles d'esprit. Est-ce que c'est l'esprit du Val? Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière d'être en compétition? Est-ce que le hasard ne fait pas partie aussi des variables en compétition? Il va y avoir pas mal de petits débats comme ça. Et pour commencer, l'entrée de jeu, j'ai envie de poser une question, c'est d'ici Darky et Pierre sont les deux personnes qui défendent l'Austen. Pourquoi vous pensez qu'un tournoi en mode ultra compétition, c'est-à-dire pour savoir le qui... En fait, je vais vous poser la question plus simplement. Vous êtes tous les deux des adversaires récurrents. Très souvent, vous affrontez l'un l'autre et chaque fois que vous voyez, vous vous affrontez en Austen. Et vous vous vantez tous deux que c'est la meilleure manière de déterminer lequel d'entre vous est le plus fort, l'Austen. Pourquoi ? Voilà, la question est posée plus simplement comme ça.
On en a déjà parlé un tout petit peu lors d'un précédent podcast. Pour moi, ma réponse, c'est parce que ça réduit la part d'aléatoire dans nos rencontres. Quand on va s'affronter, on veut au maximum affronter la stratégie adverse, ses choix, et pas sa capacité à s'adapter
à une entrée
de carte aléatoire.
À une pioche merdique, on dit les Darky.
La mauvaise foi n'est pas du côté qu'on pensait.
On va se mettre d'accord depuis le début. Hein. Il faut qu'on fasse. Il faut faire.
Tout à fait. Nous assistons à un match exceptionnel.
Tout de suite. Alors, une clé de mauvaise foi pour commencer.
Il faut qu'on se mette d'accord tous les deux. On fait face à trois personnes qui ont une mauvaise foi incommensurable, d'accord ? Donc on dit pas hasard, on dit pas aléatoire, on dit pioche merdique, on dit partie jouée d'avance et ce genre de choses.
Ah, okay, tu estimes qu'il a des parties jouées d'avance ? Une telle preuve de faiblesse! Ah mon dieu!
vrai. Et... J'ai encore eu un appel de Rome hier qui me disait « Ouais, je crois que quand même, quand on n'a pas de pique, c'est plus ou moins baisé. Hein. »
Voilà. Allez, bim !
J'ai tellement d'exemples qui contredisent, mon Dieu.
Alors, bon, donc c'est clair en tout cas, pour vous, l'Austen, sinon ça va être vraiment le bordel ce podcast, mais pour vous, il est clair que l'Austen...
Nouvelle année, nouvel esprit, YOLO.
Il est clair pour vous que l'Austen... Oh là, on a perdu Darky là. On a une image... Ah si, ça y est, il revient. L'Austen pour vous est la manière de lisser un maximum l'aléatoire, le hasard, pour...
Darky, si tu t'affrontes avec les gens qu'en Austen, c'est tout simplement parce que t'as peur d'être confronté au hasard. J'ai envie de dire, il faut que tout soit contrôlé, tu sais pas jouer, t'as peur, hein. Voilà, alors... c'était ma dernière participation à ce podcast, je suis désolée.
Je pense que je suis plus serein quand je joue pas en Austen, parce que c'est plus une partie casual, un peu pour la déconne, rigolote, et je prends presque plus plaisir quand je fais des parties sans l'Austen, et je pense même que je gagne plus de parties en ne jouant pas à l'Austen. Donc c'est la preuve que je ne cherche pas spécialement à tout diriger ou à jouer dans le truc qui m'avantage le mieux. Je préfère juste, quand je veux vraiment affronter une personne, jouer en compétitif et en Austen. Ouais. Mais c'est pas pour autant que je lui prends, enfin, que c'est plus agréable, que c'est plus facile, que c'est la voie...
Je confirme, Darky, lorsque je l'ai affronté la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est affronté en Jupiter. Enfin, j'ai affronté en fait Darky en Jupiter. Et j'ai senti que pour lui, ce Val mythique était moins important qu'un Val en Austen, parce que justement, il n'était pas en Austen. Donc je confirme vraiment. C'est-à-dire que là, ce que dit Darky, c'est vérifié par l'expérience. Le Darky est beaucoup plus à l'aise. En fait, limite, oui, la partie a moins d'intérêt, moins d'importance pour lui s'il joue sans Austen. Et oui, après, au niveau du nombre de défaites, bon là, il dit qu'il perd plus. En règle générale,
je serais pas étonné.
Il perd plus, donc c'est normal qu'il ait l'impression de perdre plus tout le temps, parce que il perd tout le temps. Hein, faut le dire.
Et je précise bien que c'est pas un choix, c'est un ressenti. Je me mets à vraiment vibrer, à trembler, et à ressentir les aspects de la compétition quand je suis en Austen.
Ah oui.
Alors qu'une partie normale, ouais, c'est un peu moins important, c'est un peu plus, vu que c'est un peu plus aléatoire, il y a moins d'implications en fait.
Et il y a moins de pression.
Ouais, aussi.
Il y a moins de pression, et c'est pour ça que, entre guillemets, tu prends plus de plaisir à jouer en Val classique. Tu dis que l'aléatoire va contrer tes capacités et tes capacités stratégiques, j'ai envie de dire. Et donc, forcément, quand tu affrontes quelqu'un en Austen, c'est que le mec en face est aussi très bon sur ce côté-là, c'est dans le côté calcul, dans le côté tactique, et donc ça te met de la pression. Donc, ce qui tendrait à prouver que le Val en Austen, c'est la vraie variante de compétition.
Bah en fait, moi je...
Quel retour sur le sujet, mesdames et messieurs.
Bah,
j'ai une petite analogie avec ça. Je viens de voir un documentaire absolument passionnant qui retrace l'histoire de Super Smash Bros. Ou Smash Bros, qui est un jeu de compétition, enfin, qui est un jeu de baston réunissant tous les personnages de l'univers Nintendo.
T'es pas censé réviser, là?
On regarde l'épisode 1, il y en a 17,
te laisse pas démonter Darky.
Juste pour raconter cette histoire.
Ça c'est une attaque de carreau sur le trèfle de Darky.
Que j'ignore, hein, que je balaye. Allez, on va continuer à parler de ce documentaire qui est fantastique, qui retrace donc l'évolution de ce jeu, qui est fait à la base pour être fun. Les personnages sont pas spécialement équilibrés, et puis pendant, donc c'est une arène qui voit s'affronter 4 personnes ou 2. Et pendant la baston, il y a des objets qui popent complètement aléatoires, des marteaux, des Pokéballs, contenant chaque Pokéball contient un Pokémon complètement aléatoire. Quand on balance, ça fait des effets un peu n'importe comment. Le jeu était fait pour être fun, un peu comme les Mario Party ou ce genre de trucs. Et pourtant, il y a eu une scène qui en a voulu en faire un jeu compétitif. Ils ont fait un, puis deux tournois. Et au bout du deuxième tournoi, ils se sont dit, en fait, on va quand même virer les objets. Parce qu'il y a le choix d'enlever ou non la partie aléatoire du jeu. Et malgré le fait que c'était moins plaisant à regarder de virer les objets, ça rendait le truc un peu moins fun, un peu moins chaotique, ils ont quand même choisi de faire ça parce qu'ils ont décidé qu'après tout, s'ils prenaient la peine de faire un tournoi et pas une rencontre, donc un tournoi, pour déterminer qui était le meilleur, et ben, il fallait virer la partie aléatoire.
Et ils faisaient quoi pour le terrain de jeu
sans objet.
Ouais, mais au final, quand tu commences comme ça, après, pour avoir joué beaucoup à ce jeu, et pour l'époque m'entraîner seul contre des niveaux 9 en CPU, tous en équipe contre moi, quand tu arrives à un certain niveau, carrément, tu te retrouves à retirer carrément le terrain, mettre un terrain tout plat, pour te retrouver absolument dans des conditions parfaites. Mais alors là, à ce niveau-là, c'est plus un jeu, c'est du sport. Et on arrive dans l'e-sport à ce niveau-là. Moi, je trouve que à ce niveau-là, est-ce qu'on peut toujours appeler ça un jeu ? Je veux dire, c'est pareil pour le Val. Si tu commences à retirer absolument tout, tout ce qui en fait la substance, et pour moi, l'aléatoire en fait partie.
Alors,
le jeu d'échecs est un sport. Hein.
Oui, il a été reconnu comme ça.
À partir du moment où il y a une compétition, il y a un sport en fait.
D'accord, ok. Ouais. Mais alors, du coup, pour vous, parce qu'il n'y a pas parce qu'il y a moins d'aléatoire, parce qu'il faut le dire aussi. En Austen, il y a quand même de l'aléatoire. C'est-à-dire qu'une fois que la main de base a été établie...
Dans Austen, il y a toujours la source. Hein, donc la pioche et le paquet de cartes, il est toujours là.
Et il y a la première carte.
La première carte qui est révélée. Ouais. Alors ça, d'ailleurs, c'est une des ambiguïtés hein, de Austen, c'est qu'on ne dit pas ce qu'il advient de la première carte. Est-ce qu'elle est draftée avec les autres ou pas ? Moi, il me semble quand même que dans Austen, c'est écrit « avant le crépuscule ».
Alors oui, mais c'est juste que les deux compères l'expliqueront mieux que moi, mais ils ont calculé que si tu veux vraiment supprimer l'aléatoire, il faut qu'on sache qui commence avant de drafter.
D'accord.
Vous confirmez ?
Voilà, en fait,
c'est pour ça que vous jouez comme ça, vous vous révélez d'abord.
Ouais, et quand on joue en Austen avec Darky, on va jouer le crépuscule avant de drafter, on va regarder qui commence, puis ensuite donc on va drafter nos mains de 10 cartes et pas 9 cartes. Donc on a vraiment supprimé toute la partie aléatoire au début de la partie, avant de piocher. Quoi.
D'accord. Alors est-ce que pour vous, vous avez vraiment des sensations différentes en jouant à l'Antares et en jouant en Austen ? J'ai l'impression que oui.
Oui, alors...
Mais la question c'est, est-ce que vous avez l'impression de jouer au même jeu ou pas ? Est-ce que vous avez l'impression de toujours jouer au Val ? C'est ça la question. Est-ce que vous avez l'impression quand vous jouez en Antares ou quand vous jouez en Austen, vous jouez à deux jeux différents ou vous jouez au même jeu ? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Parce que du coup, si vous répondez non, ça tend à donner raison à Maxime. C'est-à-dire que l'idée qu'on ferait, ce serait plus un tournoi de Val, ce serait vraiment un tournoi de Val-Austen. Mais ça, on le sait déjà, j'ai envie de dire. Mais
je vais répondre à ta question de manière inversée. Quand je joue à l'Austen, je joue au Val. Quand je joue à une version sans draft, je fais des parties d'entraînement où j'ai quand même l'impression de jouer au même jeu. Pour répondre clairement à ta question, oui, je joue au même jeu. Mais si tu voulais me faire dire non, je ne joue pas au même jeu, ce serait plutôt l'inverse. Quoi. C'est quand je joue à l'Austen, je joue au vrai truc, qui a été designé comme ça, conçu pour s'affronter.
D'accord.
Et quand je joue à l'autre version, je joue à la version un peu amoindrie, où on s'autorise des petites digressions, des petites folies, des petits hasards pour enlever le stress et plus apprécier la partie.
Pour toi, le Val d'Antares, c'est un Val d'entraînement, en fait.
Oui.
Un Val de rencontre, pour moi. C'est pour... pouvoir faire des parties sans forcément te mettre la pression et la compétition, tu vois, comme moteur de vouloir, enfin comme moteur de jeu en fait.
Et là, je rejoins complètement Darky parce que finalement, quand on va s'affronter en Austen, le fait qu'il n'y ait plus d'aléatoire, on va confronter nos capacités stratégiques et intellectuelles directement avec celles de l'autre joueur. Donc à ce moment-là, tout se résume à la question, est-ce que je suis meilleur que lui ? Est-ce que je peux anticiper ce qu'il va faire, prévoir ses coups et réussir à le battre comme ça ? Donc forcément, on a la pression qui monte et c'est là où on va faire des erreurs et c'est là où on se rend compte que les joueurs qui gagnent le plus souvent en Austen, c'est ceux qui ont qui jouent la stratégie ou ceux qui craquent psychologiquement. Enfin, ceux qui vont perdre en Austen vont être ceux qui vont craquer psychologiquement. Donc ça c'est vraiment les caractéristiques d'un jeu de tournoi. En tournoi, tu vas pouvoir compter que sur toi-même, sur tes capacités, tes ressources, et il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir gagner.
Alors moi je vais jeter un pavé dans la marle avec l'autorisation de Romaric. Vu comment s'est passé le dernier Val mythique disputé entre Romaric et Maxime, donc qui ne s'est pas fait en Austen, hein, qui s'est fait en Val d'Antares classique, vu l'état de stress dans lequel était Maxime à la fin, visible hein, physiquement, est-ce que finalement le Val mythique c'est pas aussi un Val de compète dans ces cas-là, si c'est une question de stress et de choses comme ça, d'enjeu ?
Alors du coup, quel est... En fait, qu'est-ce que la compétition
alors,
et qu'est-ce
oui,
qu'on
voilà,
mesure
que si,
c'est ça la question.
Juste,
en fait.
Ouais, je tiens juste à ajouter un truc. Excellent. Alors, on va peut-être me renvoyer mon argument dans la gueule. Peut-être que là, si,
dans la figure.
Ouais, excusez-moi. quand on sort du, peut-être que je sors un petit peu du cadre, mais dans la, vous voyez en fait, j'ai l'impression le Val comme un jeu d'échecs où lorsqu'il y a compétition, on confronte deux personnes. Moi, je vois par exemple, bon, je reparle de l'exemple que je connais, je m'excuse pour les auditeurs qui détestent ce jeu, mais moi, je vois le nombre de parties que j'ai fait de Warhammer, qui est un jeu avec des compétitions où tu payes l'entrée, il y a des tournois, des classements, et la chance intervient grandement. C'est un jeu de dés. Bah, ce n'est pas uniquement un jeu de stratégie. Alors du coup, en quoi est-ce qu'il faudrait absolument retirer le hasard, comme vous dites, pour obtenir un jeu de compétition? Est-ce que le fait de l'adaptation à la, est-ce que s'adapter à la stratégie adverse ne fait pas aussi partie de l'esprit de compétition?
Oui, mais déjà, c'est pas retirer le hasard, c'est prendre le mode de jeu qui en contient le moins. Si dans Warhammer, je connais pas spécialement le jeu de figurines, mais si dans Warhammer, il y avait un mode rajouté avec des cartes où au début de chaque tour, tu retournes la carte et c'est une intempérie, mais de fou qui arrive sur le plateau et c'est des trucs complètement.
Je vois très bien ce que tu veux dire, oui.
Ça impacte beaucoup trop le jeu. Je pense qu'on virerait pour les parties tournois. Ça n'empêche pas que ça fait partie du jeu tel qu'il a été conçu par peut-être l'auteur pour faire rire. Mais quand on veut faire un tournoi, on est obligé de prendre le mode de jeu le plus compétitif.
Moi, j'ai le contre-exemple du fait qu'on a changé de version plusieurs fois en Warhammer et que les anciennes versions étaient beaucoup plus stratégiques. Les nouvelles se jouent avec les dés et par obligation de respecter le fait qu'il y a une nouvelle version, et ben on doit jouer avec les règles et puis c'est tout parce que ça me fait chez moi. Mais
voilà, il y a des gens qui vont apprécier, il y a des gens qui vont moins apprécier, et puis après ça dépendra de ce que chacun recherche dans le jeu. Là, je me demande s'il faudrait pas revenir sur la définition de tournoi de Val et définir exactement ce qu'on entend
en
par
fait,
tournoi
exactement.
De Val.
C'est-à-dire qu'à mon avis, tu peux faire un tournoi de Val d'Antares. Vraiment un vrai tournoi de Val d'Antares très intéressant avec une compétition d'un type bien particulier et je pense que ce sera pas la même compétition ni le même esprit que un tournoi de Val d'Osten. Alors on fait un petit tour de table. Qu'est-ce que vous attendez d'un tournoi de Val, Pierre? Qu'est-ce que tu attends d'un tournoi de Val?
Alors moi, quand j'entends les mots tournoi, c'est dans ma tête, c'est on va confronter ses capacités à d'autres. C'est tout. Ouais. Ses propres
capacités personnelles.
Ses capacités personnelles. Donc, dans un tournoi...
Pourquoi choisir le Val pour le faire? Pourquoi, si tu veux vraiment mesurer tes capacités de calcul ou tes capacités physiques, pourquoi tu ne fais pas du sport ou alors des échecs ou un truc où tu n'as pas de place pour le hasard, en fait? Du coup, pourquoi choisir le Val?
Parce que je trouve que la version Osten du Val est particulièrement adaptée contient des éléments stratégiques qui sont assez complexes.
Des choses que tu as envie de tester.
Oui, bien sûr. Je trouve que c'est un jeu qui a de vraies possibilités stratégiques. Donc, à partir de là, ça m'intéresse de concourir contre d'autres personnes, d'accord, de mesurer mes capacités et ce que eux font du jeu. C'est pas vrai sur des jeux avec des dés. Lancer des dés et voir si j'arrive à faire plus que l'autre.
Quelles seraient les compétences humaines qui, selon toi, sont mises en valeur par l'Osten? La mémoire?
Alors, déjà, il y a la mémoire, oui. C'est primordial.
Est-ce qu'il n'y a pas l'expérience de l'Antares aussi qui est mise en valeur?
Alors, je dirais que, justement, dans l'Osten, elle est contrebalancée par la possibilité de
choisir soi-même sa stratégie.
Non, en fait, je pensais vraiment à la puissance de calcul. Mais c'est très mathématique ce que je dis, mais la puissance de calcul, on va dire plutôt la capacité à se projeter dans le jeu et à construire son jeu en fonction de l'adversaire et des possibilités tactiques. D'accord. C'est en fait, moi, j'aime beaucoup la version Osten du Val, puisque c'est un jeu où il faut explorer beaucoup de dimensions, beaucoup de branches, explorer des choix tactiques. Il y en a beaucoup et il faut essayer de prévoir, d'évaluer les retombées de ces choix tactiques. Voilà, ça, c'est, moi je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant pour moi dans l'Osten.
D'accord, ok.
Donc la mémoire et le calcul.
Darky. Alors toi,
non, j'allais juste rajouter, tu demandais quelles étaient
même
les compétences qui étaient mises en avant. Il y a le mental aussi, je pense. En Osten, oui, il faut être assez solide parce que
très, très
les erreurs que tu fais, très souvent, en fait, après coup, tu as ton adversaire qui va pouvoir te dire « Non, mais tu n'aurais pas dû faire ça parce que tu sais que j'avais pioché telle carte. » Alors que dans le Val normal, tu as moins le stress. Si tu fais une erreur, tu peux t'en plaindre à la source, quoi, en fait. Tu peux dire « Ouais, mais bon, c'était le hasard, je ne savais pas exactement ce que tu avais pioché, etc. » Donc, tu as plus la pression et il faut plus avoir un mental d'acier, je pense, en Osten.
Tu veux que ce qu'il arrive sur le terrain ne puisse être attribué qu'aux joueurs. Oui. Au maximum, en tout cas. Vous ne supportez pas, en fait, que ce ne soit pas de vous que viennent les choses.
l'échec ou la réussite.
L'échec ou la réussite.
Et ça va dans les deux sens. Si, si je bats mon adversaire, c'est moi qui ai battu mon adversaire, c'est moi qui ai développé la stratégie, j'ai été meilleur que lui. Si j'ai perdu, c'est soit qu'il a été meilleur que moi, soit que j'ai fait des erreurs. Voilà. Et ça, je peux m'en prendre qu'à moi. On peut pas en Val classique dire c'est le hasard, donc j'ai perdu parce que j'ai pas eu les bonnes cartes, etc. Ça, au Val en Austin, c'est pas possible. Les erreurs, c'est nous qui les faisons. Donc
c'est pas pour autant que ça nous insupporte, Maxime. J'ai l'impression que tu essaies de nous faire dire qu'on supporte pas le fait qu'il y ait des trucs qui nous arrivent, etc. Par contre, vu qu'on a envie de pouvoir déterminer qui est le plus fort, oui, on n'aime pas qu'il y ait des grains qui viennent dans le rouage et qui faussent en fait le résultat.
Il y a un exemple que tu avais cité, Darky, dans un précédent podcast que je trouve très parlant, qui est en gros, imagine, on fait un concours de qui pisse plus loin. D'accord.
Ouais.
On fait pipi et on imagine. Forcément, c'est ouvert qu'aux hommes. Je suis désolé, Morgane, tu pourras pas participer. Pourtant,
qui crache le plus loin, si tu veux. Qui crache le plus loin.
Non, qui crache le plus loin.
Qui crache le plus loin. Ça te va?
Parce que sinon, on va devoir invoquer Fabien.
Ouais,
et alors là,
parce que Fabien va pas être content. Sinon, ça va être. Ouais, ça va pas être suffisamment féministe pour lui, mais
Rob, bref, l'exemple c'est crachat. Le concours de crachat.
Donc le ah d'accord, ok. Donc c'est
donc
concours de crachat.
Problème, en fait.
J'ai vraiment un problème de pipi. Ouais. Donc alors on y va. Concours de crachat. Imaginons, on le fait. On a deux solutions. Soit on le fait en intérieur, soit on le fait en extérieur. En extérieur, on a le vent, bien sûr, qui peut intervenir et qui peut ralentir le crachat de musculus bicepsus et donc qui peut l'empêcher d'aller très loin. Ou au contraire, le faire aller encore plus loin. Ça, c'est en extérieur. Donc, il y a de l'aléatoire qui intervient, c'est le sens du vent, qu'on ne peut pas maîtriser. Et l'autre, c'est en intérieur. Et là, cette fois-ci, il n'y a que des choses maîtrisées. Et donc, l'exemple qu'il prenait, c'était celui-là.
Je vois du coup ce qu'ils veulent dire. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous avez envie d'éprouver quelque chose que vous éprouvez en Austin et vous n'avez pas l'impression que ça vous enlève quoi que ce soit par rapport à l'autre Val, mais que ça vous apporte des choses. Et du coup... c'est comme ça. Et mon avis, c'est que moi, j'aime pas le. Enfin, j'apprécie pas d'y jouer parce que c'est trop éprouvant pour moi, en fait. Mmh. Je suis déjà éprouvé en. Vous avez vu, Morgane a déjà dit, je suis dans un état pas possible quand je joue au Val normal parce que j'adore le Val normal, j'adore jouer avec ce hasard. Moi, il est là mon plaisir. J'ai beau adorer la stratégie, les chiffres, je suis un pur produit de la culture scientifique, mais malgré tout, je suis déjà éprouvé par ce Val normal. Et je n'ai beaucoup moins de plaisir à l'Austin parce que non seulement il me fatigue, mais en plus il ne me procure pas le frisson de l'inconnu.
Alors moi, en termes de... Maxime, excuse-moi. Pierre, oh putain.
Oui, non, je voulais juste rebondir Pierre. Ce que vient de dire Maxime parce que à chaque fois je me fais la même réflexion qu'on parle de l'Austin avec Darky, c'est qu'on a l'impression de passer. J'ai l'impression qu'on passe un peu pour des gros tryharders. Ouais, on veut gagner, on veut écraser tout le monde, mais c'est vraiment pas ça.
Non, je crois
c'est
pas.
Un troll un petit peu.
C'est vraiment moi ce que j'adore dans l'Austin, c'est ce qu'a dit Maxime, c'est que c'est un jeu qui est affûté. Donc on va ressentir toutes les sensations du jeu, mais à 10 fois plus fort qu'en Val classique. Pour moi personnellement, je pense pour toi, Darky, c'est la même chose. Parce que la moindre erreur, on peut se l'imputer qu'à nous-mêmes, on n'a pas d'excuses. C'est nous, on est face à la tempête sur le bateau, on tient le gouvernail et si le bateau va sur les rochers, c'est entièrement de notre faute. Et donc forcément, tout est grisant. Toutes les sensations sont beaucoup plus grisantes. On est au centre du jeu, vraiment. Alors qu'en classique, on a toujours l'excuse de dire bon c'était pas ma journée, c'était pas les bonnes, j'ai pas eu les bonnes cartes, j'ai pas eu de chance, etc. Voilà.
Alors ça,
là
c'est...
ça nous met face à nous-mêmes.
Non, en fait, je crois pas.
Et face à l'adversaire, dans le sens où
on va rentrer dans le vif du sujet.
Oui, on va peut-être revenir sur l'aspect tournoi aussi. Il faudra pas oublier non plus, je pense.
Alors le truc c'est de quel côté on se place et qu'est-ce qu'on teste en réalité. Qu'est-ce que le Val attend de ses joueurs? Voilà une excellente question. C'est-à-dire que c'est bien de dire qu'est-ce que les joueurs attendent du Val. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est tout ce qu'on vous a posé comme question. On vous a demandé, vous Pierre, vous Darky, vous Maxime, vous Morgane, qu'attendez-vous? Non mais ce type de joueurs, on va dire, parce que j'imagine qu'autour de la table, derrière leur casque, il y a des gens comme nous en fait qui nous écoutent. Voilà, qu'est-ce que vous attendez du Val? Ça c'est la première question. Mais en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que le Val attend de vous? Et en fait, quand on y réfléchit bien,
Est-ce qu'on est là pour déterminer qui est le meilleur stratège ou est-ce qu'on est là pour déterminer qui est l'élu de la source?
Si, exactement. En fait, attends. Ça va très loin. Ça va très très loin, Pierre. Je te vois hausser les yeux, mais ça va très loin. C'est-à-dire que si on se place du côté des joueurs, c'est-à-dire qu'on se dit, les joueurs ont envie de savoir lequel est le plus compétitif, d'accord? Et ils prennent leurs règles à eux. évidemment, ça va être l'Austen, parce que c'est la dimension et ça, c'est incontestable. C'est-à-dire le concours de crachat en salle ou à l'extérieur, tout ça, tout ce que vous dites, c'est très très bien et c'est incontestable. Mais si on se place du côté du jeu maintenant et qu'on réfléchit à quel genre de compétition le jeu attend de nous, on s'aperçoit qu'en fait, l'esprit du Val est tourné contre, totalement contre les idées que j'appelle les idées de la lumière. Contre l'esprit, exactement. L'esprit, c'est le méchant du jeu dans le Val. Et l'Austen, pour moi, c'est une façon de dire, regardez, c'est entre les joueurs, c'est l'esprit qu'on mesure. Dans le Val, l'esprit du Val, c'est la prise de risque contre la rationalité. Regardez le nombre de parties que je perds à cause de mon aversion au risque. Je crois que le Val aurait plutôt tendance à encourager des gens qui savent être raisonnables au moment où il faut être raisonnable et savent prendre des risques au moment où il faut prendre des risques. Et au final, la vraie compétition, c'est une compétition contre soi-même et contre ses propres raisonnements et contre sa propre rationalité. Ça, c'est la vraie compétition proposée par le Val. Et la vôtre, qui est une compétition de rationalité, justement. Alors, je ne dis pas que vous vous placez du côté des joueurs. Vous avez envie de savoir quel est le meilleur joueur. Mais le Val ne vous propose pas de faire ce duel que vous voulez faire.
Le Val d'Antares.
Le Val d'Antares. Même l'ancien Val de Sinlos. Pire encore, le Val de Sinlos, en fait.
Si tu considères à ce point-là les sensations solo, t'en aurais fait un jeu solo. Si t'as mis deux âmes face à face pour se confronter, c'est que forcément tu voulais que naisse un esprit de compétition entre les deux, non ?
Oui, mais en fait, la compétition est à la fois contre soi-même et contre l'autre. C'est-à-dire que tu as un système... En fait, pour moi, si tu fais que des calculs dans le Val, et ça, je le vis parce que c'est une expérience personnelle, c'est-à-dire que moi, je suis un bon calculateur, je calcule bien mes coûts et tout, mais je perds énormément parce que je ne prends pas suffisamment de risques.
Enfin, ou tu perds ou tu gagnes lentement, en fait.
On a eu des exemples
où j'aurais dû me faire défoncer en 5 tours et ça a pris 28 tours à cause de ça.
Et au final,
t'as pris le risque du fait que je prenne des bonnes cartes.
La peur de prendre des risques m'épuise physiquement durant un match de Val. Résultat en Val de, enfin c'est la peur qui m'épuise le plus. Et j'ai peur que juste pour finir et après je vous laisse la parole, j'ai peur que le Val d'Austen enlève la peur, en fait. C'est-à-dire le calcul en lui-même, en fait. Enfin, le... Alors, Darky.
Ouais. Ce qui m'embête, c'est que tu opposes l'aspect raisonnable et l'aspect prise de risque. Il n'y a rien de plus calculé et prévisible mathématiquement que la prise de risque. Les grands joueurs de poker, c'est pas des gars qui font des paris toutes les 4 secondes sur ce qui peut se passer, qui se disent allez à Jacques Taès, l'instinct va me guider, etc. C'est juste des gars qui font des calculs et qui estiment qu'à ce moment-là, faut prendre des risques. Tu confonds ton aversion au risque avec ton aversion au calcul, en fait. Je pense que même si on faisait un tournoi, pas en Austen, ce serait quand même des calculateurs qui seraient dans le haut du panier, tu vois.
Donc. C'est bon.
Je rejoins Darky puisque, au contraire, moi je trouve que l'Austen, c'est vraiment le moment où tu vas prendre des risques, tu vas aller contre tes calculs justement. Parce que tu sais qu'en face, tu as quelqu'un qui calcule autant que toi. Tu sais que, comme tu connais ses cartes et lui connaît les tiennes, il va anticiper tes coups et donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir le surprendre. C'est ce que je disais dans un podcast précédent sur l'Austen, quand on a parlé de l'Austen. C'est que moi, je me retrouve à jouer en Austen des mains que j'aurais jamais pu jouer en Val classique. Parce que en Val classique, bon, t'es soumis à la source, tu peux jouer ça, tu le joues, tu penses que c'est à peu près bien, que c'est un coup qui potentiellement peut être pas trop mal au moment présent. En Austen, je vais jouer des trucs parce que l'autre ne s'y attend pas. Il va s'attendre à ce que je joue d'une certaine manière. Donc je vais prendre des risques et je vais apprécier le moment où je vais être surpris par mon adversaire parce qu'il va pas jouer ce que j'attends. Donc en fait, je trouve que la prise de risque, c'est pas du tout l'apanage du Val classique. C'est bien en Austen.
Le problème, avant de te passer la parole, Maxime, parce que je pense que ça va aller dans le sens de ce que tu veux dire. Le problème, c'est que si vous aviez raison, on serait tous d'accord autour de cette table. Pourquoi ? Alors, dans ce cas-là, pourquoi il y en a qui préfèrent...
Oui, ouais, non, c'est pas parce qu'on est de mauvaise foi, Dark, je te vois...
Non, c'est ça, c'est que...
si t'avais raison, je serais d'accord avec toi, donc t'as tort.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu... C'est pas ça. C'est pourquoi il y a des gens qui préfèrent l'Austen et des gens qui ne préfèrent pas. Si vraiment... C'est ça que je comprends pas, moi.
Je peux juste voir un truc. C'est une question. C'est une question conne, mais je me la pose tout de suite, donc je préfère.
Je ne dis pas que vous avez tort.
Une question bête, s'il te plaît. Merci.
Non, je suis pas devant mes élèves, donc là, je dis des insanités.
Et je ne dis pas que vous avez tort.
Je veux juste savoir, est-ce que vous avez déjà songé, c'est peut-être bête comme question, est-ce que vous avez déjà songé, lorsque vous jouez en Austin, à chaque fois vous piochez, révéler la carte que vous piochez à l'adversaire? Je veux dire, quitte au bout d'un moment à savoir ce que l'autre a en main et être confronté uniquement à ce qu'il joue. Pourquoi ne pas révéler ce que l'autre a dans la main? Et pourquoi continuer à piocher comme dans le Val? Pourquoi faire ce mystère?
Parce que ce sont les règles. On va pas changer toutes les règles.
Ouais, vous avez déjà changé une règle de l'Austin avec la pioche à la fin. Pourquoi
pas? Non, on l'a pas changé. Non, elle est juste pas spécialement précisée. Moi, j'ai pas pensé parce que j'ai pas envie de changer le jeu. Je le trouve très bien.
D'accord, mais n'empêche que alors je vois tout à fait le point de Maxime, c'est de dire à ce moment-là pourquoi pas carrément essayer
quitte à,
de
quitte
créer
à ce qu'on connaisse les mains de chacun,
créer un val spécial tournoi où vraiment on gomme tout l'aléatoire, tu vois. Je sais pas si c'est possible ou si non, mais ça n'a pas grand intérêt de faire ça.
J'ai dit c'est peut-être une question bête. Hein, mais,
je vois
mais
pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt dans le sens où on a enfin on joue un jeu, le jeu est défini à un cadre. Fait, si on commence à sortir des règles, enfin on peut dire aussi pourquoi on jouait pas tous aux échecs, parce que finalement.
Mais oui, c'était un peu la question que je te posais tout à l'heure quand je dis pourquoi choisir le Val plutôt qu'un autre jeu.
Non, parce que après il y a des sensibilités de chacun. Moi j'aime beaucoup le cadre du Val, j'aime beaucoup l'esthétique, les règles, les cartes, etc. Ouais. Je prends pas mon pied autant aux échecs, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça.
Bon. Donc, moi j'essaye de comprendre. Je ne suis pas en train de dire vous avez tort ou pas. Le point, il est là, c'est que je ne comprends pas pourquoi. On parle de compétition, d'accord ?
Ouais.
Maxime et moi, nous pensons que la meilleure manière de se mesurer l'un contre l'autre, c'est de se mesurer en Antares. D'accord ?
Okay. Eh bien, moi je réponds que je ne suis pas d'accord parce qu'on était dans un autre podcast précédent. On était tombés tous d'accord sur le fait qu'en Val classique, en Val d'Antares, on joue en grande partie contre soi-même.
Mais oui,
c'est ça. Mais donc c'est pas de la compétition, puisque la compétition, tu joues contre un adversaire, pas contre toi-même.
Mais non, mais tu joues contre un adversaire et à la fois, tu sais, c'est ça qui est génial dans le Val d'Antares. Et c'est ça que tu comprends pas en fait.
Dans les épreuves de sprint, tu joues aussi contre eux-mêmes.
Tu te bats contre les autres. Voilà, merci Maxime. C'est-à-dire que tu te bats à la fois contre les autres et contre toi-même, alors que dans l'autre Val, tu ne te bats que contre l'adversaire. Ou alors,
Mémorielles. Et puis, tu as plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si ton adversaire est très bon, qui te met la pression psychologiquement, tu peux craquer, faire des erreurs. Donc, tu te bats aussi contre toi-même. Mais c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. En fait, dans le Val classique, tu vas te battre contre toi-même par rapport à ta capacité à t'adapter à une situation qui va être plus ou moins merdique en fonction de ta chance. Alors que dans le Val d'Austin, le Val de compétition, tu vas te battre contre ton adversaire et tu vas te battre contre toi-même, mais dans le toi-même qui est
tu comprends
le toi-même qui est mis en face de lui à cause de son adversaire,
pas que de la chance dans l'intérêt, il y a aussi du calcul.
Nous, moi en fait,
je joue un trèfle pour piocher une carte parce que je sais qu'il y a tel nombre de machins et j'ai telle chance de le prendre, et donc à ce moment-là, il y a aussi du calcul dans le Val d'Antares.
C'est indubitable. Mais moi, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose dans ce podcast, c'est-à-dire que Maxime et moi, nous comprenons parfaitement les raisons qui vous poussent à jouer en Austin. C'est-à-dire que nous vous comprenons. Mais vous, est-ce que vous nous comprenez? C'est ça la question que je te pose. Est-ce que toi, tu comprends qu'il y ait des joueurs comme Jeff, comme Max, comme moi, je ne sais pas pour Yann Sunny, mais qui préféreront jouer en Antares?
Mais tout à fait, je vous comprends tout à fait. Alors, mais tu me parles de compétition, tu poseras la question à Jeff. Jeff te dira, moi, m'étrangler avec mon adversaire, ça me plaît pas plus que ça. Moi, je préfère jouer, faire un bon val narratif ou un val classique en bonne entente avec mon adversaire.
C'est ça.
J'aime pas la compétition. Il te dira ça, j'aime pas la compétition.
Max, qu'est-ce que t'en penses de ça, ce point? C'est-à-dire dire... Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que justement c'est pas notre côté rôliste qui ressort? Parce que regarde, quand on regarde les deux qui défendent l'Austin ici,
c'est des matheux.
C'est des matheux. Deux, c'est pas des rôlistes de la première heure comme nous, quoi.
Je suis pas un rôliste de la première heure non plus.
C'est-à-dire que non, mais t'es un rôliste. T'es un rôliste, quoi. Je veux dire, vrai rôliste. Tu joues au jeu de rôle plus d'une fois par mois, quoi.
Depuis qu'il y a sens, oui.
Si on regarde les gens de ton cercle d'amis proches, Rome, qui jouent au Val, etc., je pense à Alexis, je pense à Guénis, tout ça. Est-ce que la compétition les intéresse, ces gens-là? Aloïs aussi. Aloïs que j'ai rencontré
en fait, le truc, c'est
à Nantes.
À l'heure actuelle, j'ai un recul sur le jeu. Et eux, je les ai pas vus depuis, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc du coup, je peux pas te dire quoi.
Parce que bon, moi, pour avoir rencontré Aloïs, avoir parlé un petit peu avec lui, il m'a dit très clairement, j'adore le Val, mais
je n'aime pas la compétition.
J'aime pas la compétition. Donc moi, ça m'intéresse pas de jouer en Austin, ça m'intéresse pas de jouer parce que selon lui, c'est ce que met en exergue l'Austin. C'est vraiment c'est ça.
En fait,
on peut aimer calculer en Val classique parce qu'il y a du calcul. Je dis pas le contraire, mais il y a ce côté, j'affronte quelqu'un et j'essaie de lui marcher dessus quoi.
Moi, je crois qu'il existe une forme de compétition à côté de laquelle vous passez tous les
deux.
En fait,
je crois que j'ai le doigt sur quelque chose.
Et nous,
est-ce que vous avez le sentiment, quand vous jouez en Antares contre une différente personne, est-ce que vous avez l'impression que ça ne change rien à la personne qui est en face de vous?
Ouais. Ah tiens, très bonne question.
Si, ça change. Je trouve que ça change, évidemment. Il y a des comportements différents, des adversaires différents.
Bah, à partir de là, moi, j'ai l'impression de me confronter à ces gens-là. Et je suis à chaque fois surpris en fonction des gens.
Oui, mais est-ce que tu vas te dire que ton adversaire vient te faire un bon coup? Est-ce que c'est parce qu'il a pioché la bonne carte et malheureusement il avait que ça à faire comme coup, donc il l'a fait et ça t'a pris au dépourvu? Ou est-ce que tu préfères te dire que ah ben non, on a joué en Austin, donc s'il a sorti ce coup-là, c'est qu'il l'a voulu. Tu vois, c'est ça. Moi, ce qui me gêne vraiment, si on doit jouer au Val de compétition et qu'on joue en classique, c'est de me dire, le mec a sorti un bon coup, il va m'étaler, ça y est, la partie est perdue, et ça, ben, il a pas fait exprès.
Je pense que c'est vachement sous-estimer la personne en face de toi.
Mais peut-être, mais je sais pas. Mais je vais me poser la question. Je vais avoir le doute. Je vais me dire, est-ce que le coup qui vient de sortir, il a vraiment calculé ou est-ce que c'était
du coup,
le seul
le problème
truc
vient de toi.
Bah pourquoi?
Parce que c'est toi qui te poses cette question. Tu veux pas croire que l'autre il y a cru. Tu doutes.
Mais non, tu peux pas te dire, Maxime, il vient de sortir un bon coup, forcément il y a pensé. Il peut très bien ne pas y avoir pensé. C'était le coup le plus raisonnable à jouer. Et dans ce cas-là, c'est un calculateur. C'est un calculateur. Il a évalué
la probabilité, la possibilité, les chances
possibles. Voilà. Il a joué le meilleur coup possible et il se trouve qu'il t'a mis dans une situation merdique. Mais c'est pas parce que lui avait compris que ça te mettait dans une situation merdique. C'est parce que c'était, selon lui, le meilleur coup à jouer. Et ça, tu te poses tout le temps. Je me pose tout le temps la question en Val classique. Après, peut-être que toi, t'es un peu optimiste en disant forcément il y a pensé. Moi, je vois l'autre côté, je dis mais autant il est en train de me faire un coup, il sait même pas qui me met dedans quoi. Et ça, en Austin, je pense pas comme ça. Et c'est pour ça que je pense que l'Austin est plus adapté au tournoi. Parce qu'en tournoi, tu veux, si tu te fais battre, tu veux te faire battre par ton adversaire et rien que ton adversaire.
Ouais, moi, je crois vraiment que d'une manière générale, je pense que vous avez raison tous les deux, Darky et toi. Mais le truc, c'est que je pense que vous pouvez avoir raison. Et nous aussi, si les deux jeux, c'est-à-dire le Val en Austin et le Val... Parce que moi, en fait, depuis tout à l'heure, il y a une espèce d'opposition. On dit, oui, les méchants, les gentils, nous, on défend tel point. Mais en fait, c'est totalement faux, je pense. Darky, tu voulais intervenir?
Non, j'allais aller dans ce sens quand tu disais, je pense que vous passez à côté d'un certain style de compétition. Ouais, déjà, il faut bien que tu comprennes, mais je me doute bien que tu le comprends, que j'adore faire des compétitions sans l'Austin. J'arrive vachement à apprécier le jeu pour ce qu'il est. Quand je fais de l'Austin, j'apprécie le jeu pour ce qu'il est, et en plus, j'apprécie le jeu pour l'aspect compétition. Et là où je prendrais n'importe quel autre jeu, j'apprécierais autant la compétition. Donc je pense vraiment qu'on peut avoir raison tous les deux. D'ailleurs, pour aller un peu à l'inverse de mon propos, quand on dit en compétitif, il faut faire de l'Austin, c'est du point de vue des joueurs. Mais si le Val aura le succès qu'on lui prédit, puisqu'il évidemment il l'aura.
Oh oui.
C'est possible d'envisager des tournois très compétitifs en mode non Austin pour le fun simplement, parce que c'est possible que ce soit beaucoup plus marrant à voir en tant que spectateur une partie où il y a un peu de random, des retournements de situation de fou. Ça peut rendre le tournoi plus divertissant en fait pour les spectateurs.
Donc il faut savoir que la question qu'on pose, c'est qu'est-ce que les gens viennent chercher du coup dans un tournoi? Est-ce qu'ils viennent pour s'amuser, pour se confronter à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils veulent les deux, et à quel pourcentage de l'un par rapport à l'autre?
Alors, on avait bien isolé le tournoi compétitif, tu vois, Max.
Ouais. Mais dans un tournoi compétitif, t'es quand même là pour t'amuser, ça reste un jeu.
Ah, il faut savoir
s'amuse.
Non, je suis pas d'accord.
Je crois que je dis de la merde, attention.
Il faut savoir que ce que dit Darky là et ce que signale Darky là, c'est un énorme débat en ce moment dans le fighting, dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes questionnements autour de ces questions de comment organiser
la professionnalisation des tournois,
qui soit à la fois distrayant pour le public et en même temps équitable pour les joueurs qui s'affrontent et juste pour les joueurs qui s'affrontent. Et je vous jure que ce débat-là, il est loin d'être terminé. C'est une énorme question. Là, Darky, tu fous un pavé énorme dans la mare. Et à mon avis, c'est intranchable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire encore.
Quand même, pour regarder énormément d'e-sport sur le net, les jeux qui tendent à rendre plus facile d'accès leurs tournois, en fait, plaisent moins. Parce que ce que les gens viennent voir quand ils viennent voir du sport, c'est des prouesses. C'est ouais, des gens c'est qui font technique. Des trucs de fous. C'est des équipes qui s'affrontent sur des jeux balèze ouais. et rendre ça facile et accessible, je crois que ça rend des tournois un peu moins fun à regarder. Oui. Par exemple, on a Hearthstone, qui est un jeu de cartes créé par Blizzard, qui a beaucoup de hasard dans ses mécaniques de jeu. Et j'ai l'impression que quand on regarde des tournois de ce jeu-là, c'est assez intéressant à regarder. Mais quand on a deux esprits épiques qui s'affrontent, c'est pas fou ce qu'il en ressort. On se dit, putain, je pourrais faire ça. Et ça rend, ça enlève vraiment une âme en tant que spectateur. Alors que quand tu regardes un jeu assez compliqué, tu regardes du StarCraft 2, par exemple, quand deux gars s'affrontent, c'est des génies, les gars, quoi. Ils font plus d'action que le plus grand virtuose du piano et c'est beau, c'est spectaculaire.
Oui, mais par exemple, tu vois, alors je suis d'accord avec toi, hein, Dark, il n'y a pas de souci, mais d'autres pourraient te dire, par exemple, que à partir du moment où Michael Schumacher a commencé à gagner tous les prix de Formule 1, il y a des tas de gens qui se sont désintéressés de la Formule 1, ça les intéressait juste plus parce qu'il y avait plus de d'affrontement, il y avait plus de duel avec personne et putain Nadal Federer quoi, il y a rien de plus chiant que le tennis professionnel à l'heure actuelle parce que c'est eux qui sont toujours en finale, enfin t'en fous, il y a un moment donné ça, il y a un moment donné aussi oui, voir des prouesses c'est bien mais voir toujours les mêmes gueules ça fait chier.
Je peux pas qu'on puisse comparer ça à l'Austin, tu vois. Moi qui suis un défenseur de l'Antares, je pense qu'il y a quand même suffisamment d'aléatoire dans l'Austin pour pas qu'on en arrive à des situations.
Moi je dis qu'un Austin, tu fais de l'Austin avec des compteurs, c'est-à-dire les mecs qui compte comme les gens qui sont interdits de casino parce qu'ils savent compter les cartes.
Moi, c'est ce qui me fait peur.
C'est terminé, c'est terminé l'Austin, c'est terminé le Val. Le jeu, il explose en plein vol. Il y a plus aucune.
À savoir, Rome, qu'en casino, compter les cartes n'est pas interdit. Hein. C'est partager l'information, c'est jouer à plusieurs. Mais tu vas dans n'importe quel casino, tu as le droit de compter les cartes.
Ouais, hein. Tu te fais gentiment virer.
Utiliser à fond son cerveau, c'est autorisé. Hein.
Mais si tu... Oui, non, mais bien sûr.
Mais en plus, c'est pas possible dans le Val. Hein. T'as toujours une part d'aléatoire. Nous,
c'est vrai.
En Austin, ce qu'on cherche, c'est lisser l'aléatoire au départ. Le plus possible, mais il reste quand même une part. Donc, y a quand même. Ça peut réserver des surprises. Justement, c'est la capacité de l'Austin à créer des surprises pour arriver à vaincre quelqu'un qui, en théorie, est du même niveau que toi.
En fait, bon, un autre problème aussi, mais bon, ça c'est une autre question, mais qui rejoint un petit peu la question de Darky, c'est pour qui sont que Maxime soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir pour qui on organise des tournois, c'est que si tu montres du Val jouer en Austin à la télé sans arrêt, bah les gens ils vont se dire que le Val c'est l'Austin et basta, et plus personne ne jouera en Antares. Alors que moi il me semble que jouer en Austin sans avoir bourlingué sur l'Antares et sans avoir expérimenté, c'est juste imaginer une fiction sans avoir expérimenté la réalité.
C'est-à-dire mais ça, on est d'accord, on avait discuté déjà.
T'as pas de briques. Ouais, tout à fait.
On est d'accord. Pour démarrer le Val central, on va dire. En fait, tout à l'heure, j'avais une image que, du coup, comme la conversation a dévié, je suis pas revenu dessus, mais une bonne image que je pourrais donner du jeu et de ma perception du jeu, c'est pour moi, le Val classique, c'est un gâteau. Et l'Austin, c'est la cerise qu'il y a dessus. Donc, c'est quand même cool de bouffer tout le gâteau parce qu'on a faim et puis parce que le gâteau a l'air vachement appétissant. Mais si en plus t'as la petite cerise dessus, ah là ça fait tout. Ça fait tout piquant.
Ou alors c'est ce qui te fait vomir.
Ce n'est bon, pas... écoute Maxime, on va sortir deux minutes là, j'ai deux mots à te dire.
Ce n'est pas vraiment un argument. Mais en tout cas, Maxime, est-ce que tu accordes le fait que pour la compétition, l'Austin c'est le meilleur choix? Demain, bon, la question elle est simple.
Ouais, demain, j'organise un tournoi. Est-ce que je le fais en Austin?
Non. C'est un tournoi pour la compète, tu vois.
Ouais, non, mais un tournoi, oui, pour compète, pas une convention. Je pense qu'on est d'accord pour dire que pour une rencontre, l'Antares.
Non, l'Antares, c'est indispensable.
Et juste la meilleure.
Voire même la Sinlos.
Après
ça c'est par rapport à la difficulté, c'est un autre sujet.
Et est-ce que l'Austin pour la compétition c'est ce qu'il y a de mieux? Je pense que oui, mais du coup est-ce que pour vous peut raisonnablement quand même envisager de faire un tournoi en Antares?
Mais oui, enfin.
Alors, je suis désolé de lancer cette question parce que ça va signer un autre boudin avec tout le monde qui va être d'accord.
Mais la question c'est surtout les joueurs qui vont vouloir jouer au Val. En compétiteur, qu'est-ce qu'ils vont avoir tendance à choisir le plus souvent? Ils vont choisir quand même l'Austen. Si c'est vraiment des compétiteurs, ils vont vouloir ressentir les sensations de l'Austen.
Sauf si c'est pas leur mémoire qui veut les prouver.
Voilà, c'est ça.
Après,
c'est ça,
on peut faire un tournoi en Antares où ce qu'on cherche à ressentir, les sensations qu'on cherche à ressentir sont pas les mêmes. On va jouer. Bon, effectivement, on va jouer contre des bons joueurs, on va voir comment ils s'en sortent, comment. C'est plus.
Moi, ce qui me fait halluciner en Antares, c'est que t'as beau être le meilleur, le plus balèze et tout, si tu rencontres un mec qui a une logique, un état d'esprit qui est différent du tien, tu peux quand même bien mordre la poussière. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que tu vois,
ils vont te dire qu'il te fera la même.
Moi, vous me faites vraiment penser à des joueurs, mais ça se tient, hein, je veux dire, à des joueurs de poker qui n'ont plus envie de jouer avec des débutants, quoi. Parce que les débutants, ça fait chier. Ça rompt leur petite routine auxquelles ils sont habitués. Voilà.
J'irai pas jusque-là.
Non, mais c'est si tu veux.
Plus que les joueurs de poker, moi, ça me fait penser aux joueurs de tarot. Tu sais, ces gens qui font du tarot tous les étés pendant 15 jours, 24 heures sur 24. Et puis un jour, ils disent « Ah bah, viens jouer au tarot !» Alors, tu viens jouer au tarot. Et puis, comme t'en as jamais fait, eh ben, je sais pas, tu poses des cartes au pif, quoi. Tu fais, je sais pas, vas-y, je pose ça. Eux, ils ont l'habitude de compter les atouts. Toi, tu comptes que dalle, tu sais pas où t'en es, tu tentes le truc. Et au final, que tu perdes ou que tu réussisses, tu finis souvent par te faire engueuler parce que t'as. Oui, non, mais je dis pas que c'est ton cas, Pierre. Réagis pas comme ça. Je fais une généralité. Et en fait, tu finis par te faire engueuler parce que t'as foutu le jeu en l'air, quoi. Combien de fois ça m'est arrivé au tarot? Combien de fois ça m'est arrivé au poker? C'est pour ça que du coup, que je fais l'analogie avec ce que disait Romaric. Parce que tu dis, mais comment tu joues? Bah, je sais pas, comme je peux, comme je le sens, j'en sais rien. Enfin, ouais, mais bon, franchement, c'était un coup tout pourri, t'aurais pu faire ça. Oh, écoute, je te rends.
Ouais, mais là, on parle de tournoi quand même. Voilà.
Oui, mais bon, ça reste un. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de faire du tournoi sans pour autant avoir 36 années de Val derrière eux. Hein.
J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu te considères, quand tu parles de ce genre de ressenti, comme une mauvaise joueuse de Val et donc tu ne veux pas aller plus loin? Est-ce que là, j'ai l'impression, tu vois, quand tu parles des parties tarot avec des gens qui savent bien jouer, qui font ça souvent, qui
je te parle de gens engueuler, qui ont de l'habitude. Quand je te dis savent bien jouer, ouais, c'est que ce sont des gens qui connaissent les mécaniques, qui ont appris certaines ouvertures, certains coups, voilà, qui ont des réflexes un peu comme les joueurs d'échecs un peu aguerris, qui connaissent certaines ouvertures et certains coups prétirés.
J'ai l'impression en fait que l'image qui est présentée des joueurs de Val classique et des joueurs d'Austen, c'est la suivante. Les joueurs de Val classique, en fait, ce sont pas forcément de très bons calculateurs et comme ils veulent pas la jouer trop sérieux, ils veulent pas trop se faire engueuler, ils ont peur de pas arriver à calculer jusqu'au bout et à être battus là-dessus, alors ils vont se retourner vers le Val classique parce qu'il y a quand même un peu de hasard, c'est plus un combat contre eux-mêmes, contre leur propre adaptabilité, alors que tu présentes plutôt les joueurs d'Austen, les compétiteurs, comme des gens qui sont ultra calculateurs, qui ont des années de pratique derrière eux et il faut jouer comme ça et pas autrement, et si on rentre pas dans leur sphère...
Non, j'ai dit que ça me faisait penser à certains joueurs de tarot sur ce que disait Romaric, donc vous voulez plus jouer avec des débutants.
Oui, mais
la remarque de Romaric me faisait penser à ça.
Enfin, pour dans mon cas, c'est faux, puisque je forme toujours des débutants. J'aime bien jouer contre les débutants et au contraire, ça me donne l'opportunité moi de développer d'autres stratégies que je pratiquerai pas par ailleurs, de faire d'autres ouvertures, etc. Et de leur apprendre des choses. Donc non, j'aime toujours pratiquer avec les débutants. C'est juste qu'on a des sensations différentes, c'est tout.
Qu'est-ce qui se passe là, Darky, là? Je comprends pas.
C'est juste qu'il entend pas Morgane parce qu'elle veut pas hurler.
Ah oui, non, mais Morgane, mes oscillations ne l'entendent pas, si tu veux. Donc, tu veux ajouter quelque chose, Morgane, par rapport à ça?
Je pense que c'est, enfin, pour la question du tournoi, etc. Je pense que là, on est rentré en fait, Pierre, dans un autre débat, hein, qui est la question effectivement du ressenti des joueurs.
Mais oui, mais que recherchent les joueurs qui veulent jouer au Val en compétition?
Non, mais tu vois, quand tu dis les gens qui savent pas calculer, enfin, qui veulent pas calculer, qui se considèrent pas comme très bons et tout, ils ont un peu la trouille. Alors du coup, ils vont en Val classique un peu par dépit, tu vois, parce que ils savent pas.
Non, parce qu'ils s'y sentent mieux, tout simplement.
Oui,
je pense que c'est une différence de ressenti et de ce qu'on attend. Ça dépend de ce qu'on attend. Les joueurs qui vont aller dans le Val de compétition, vont pas avoir les mêmes attentes que ceux qui restent en Antares, parce qu'ils ont pas la même conception du jeu. Pour eux, l'esthétique du Val joue dans des directions différentes.
Je pense qu'il y a plusieurs types de compétitions, et je pense que la compétition en Antares, tu peux l'obtenir, mais même vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein. Moi, quand je joue avec, même s'il y a pas de classement, etc. Mais pendant le tournoi du Val, il m'a semblé que on obtenait parfois des esprits de compétition, même sans Ostein. Je pense que tu mesures juste pas
d'accord.
La même chose.
Ça, d'accord. Alors, je vais poser le problème sous un autre angle. À la fin d'un tournoi, à la fin d'une compétition, on attend quoi ? On attend un classement avec quelqu'un qui est en haut du classement et puis d'autres. Ok ? Est-ce que vous pensez dans quel cadre Val d'Ostein, Val classique, vous pensez qu'il y aura le moins de réclamations et les gens accepteront le classement le mieux ?
Ça dépend de la société dans laquelle tu te situes, en fait.
Mais je pense qu'il a raison.
Non.
Là, je te concède le point, mais vas-y, Rome.
Moi, je suis pas d'accord. Ça dépend vraiment de la société dans laquelle tu te situes. Par exemple, moi, je pense honnêtement que le Val tel que vous le descendez, la compétition telle que vous la défendez, elle est vraiment le fruit de notre époque et de notre temps. Mais vraiment, c'est-à-dire que...
Je suis d'accord.
Nous, en fait, on reconnaît, en fait, avec Jeff, je sais pas avec Maxime, mais... Mmh. Parce que en fait, dans le Val, il y a aussi une histoire. Dans la Val TV, par exemple, mon générique, c'est la chanson de Hayam. On n'est pas né sous la même étoile. On reconnaît le mec qui est en haut du classement au Val. C'est pas forcément c'est à la fois le meilleur calculateur. C'est celui qui a su optimiser ses chances, s'adapter. Mais c'est aussi le mec qui a eu le plus de bol, ouais. Qui est né sous la bonne étoile, qui a joué sa bonne étoile. Et au Val, on s'aperçoit souvent que quand on optimise, quand on va jusqu'au bout du jeu, on s'aperçoit que on a fait un beau chemin. Souvent, quand on arrive jusqu'au lever de soleil, tout le monde concède que c'est les meilleures parties qu'on fait, c'est celles qui vont jusqu'au lever de soleil. Ça, c'est le premier point.
Oui, parce qu'on équilibre.
Et le deuxième point, oui, parce qu'on équilibre. Et enfin, c'est
parce que le jeu dure longtemps, parce qu'on équilibre, parce que ça
donc,
va être
coup,
une partie disputée.
Donc du coup, l'Ostein permet d'équilibrer dès le départ et donc, etc.
Et oui, c'est ça. Généralement, en Ostein, à part si vraiment il y a une différence de niveau entre les deux joueurs, il y en a un qui va prendre son adversaire dès le draft, il va gagner la partie le draft, ouais. Ça peut arriver.
Moi, c'est ça qui me fait chier, en fait.
Ça arrive.
Il y a beaucoup de parties que je joue... Excuse-moi de t'interrompre, Pierre, je suis désolé. Je veux juste placer un truc, c'est que quand je joue en Ostein... je veux pas faire de pourcentage à la mort moelleux, mais 50%, allez, je vais être sympa, 50% des parties que je joue en Ostein, à la fin du draft, je sais comment ça va se passer. Et j'ai raison. J'ai pas encore été mis en défaut. Et moi, ça me fait chier, j'ai déjà joué la partie dans ma tête. Bon, bah, je la joue, faut bien poser les cartes. Après, mon cerveau, il est plus là, c'est juste mécanique. Il y a vite fait le hasard de la pioche des cartes, mais tout est tellement joué au départ que les parties sont courtes en Ostein. Enfin, pour les parties courtes. Je parle bien pour les parties courtes. Sauf que quand tu fais ta pioche, généralement, tu réfléchis. Enfin, moi, j'ai peut-être tort, mais je ne réfléchis pas en termes de stratégie sur le long terme quand je fais mon draft sur l'Ostein. Je fais en sorte de niquer le mec dès le début en lui foutant une pénurie et en pouvant lui péter la gueule le plus vite possible.
Ah oui, mais c'est dans la couleur du Val.
Mais du coup, ma partie, elle est jouée dans ma tête. Et c'est fini. Genre, bon, bah, je joue ça, mais de toute façon, je sais très bien que t'as mis ça. Ah, bah, tiens, j'avais raison. Bon, bah, c'est fini.
En fait, tu veux dire qu'au Val d'Ostein, finalement, on ne joue que pendant le draft et qu'après, tout
non,
est joué.
Non, pas que. Je dis, là, j'ai sorti un pourcentage aléatoire de 50% des
drafts. Ce que tu veux dire.
Mais il y a une bonne partie des parties qui se passent comme ça, et un plus grand pourcentage de parties se passent comme ça dans le Val Ostein que dans le Val Antares.
Alors là, vraiment, tu viens de noter le point qui me fait chier en Ostein.
Ouais, je l'avais déjà réussi à le conceptualiser, je n'arrivais pas à le sortir.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment cette sensation. Alors, c'est pas tellement que tu vas pouvoir prédire parce que une fois, moi, tu dis 50% du temps, je sais ce qui va se passer. Moi, je dirais que je sais jamais ce qui va se passer. Mais j'ai cette impression que
la partie est déjà jouée, en fait.
Honnêtement, j'ai moins de sensations. J'ai juste moins de sensations. Darky.
En fait, c'est une bonne reformulation, mais j'ai l'impression que ça reste une reformulation. Parce que cette idée de pouvoir prédire, nous, on l'a après coup, quand on a fait une partie normale, et on se dit, bah, en fait, j'aurais rien pu faire. Tout s'est déroulé normalement. T'as posé les cartes que t'as piochées, et c'était complètement logique que tu me défonces. Mais on les a après coup et ça invalide un peu notre partie. Vous préférez rester complètement sans rien savoir et apprécier des sensations qui sont un peu factices parce que sur le coup, ce sont peut-être des vraies sensations de oh là là, je sais pas si je vais gagner, si je vais perdre, etc. Vous savourez ça.
Ouais, mais du coup, j'ai le plaisir. Du coup, j'ai le plaisir.
En fait, non, mais attends, je dis pas que tu joues. Je suis pas en train de dire que tu es en train de jouer au Val, on est d'accord.
C'est énorme parce que, en fait, derrière ces deux variantes d'Austen, enfin derrière le Val et la variante d'Austen, se cachent en fait des visions du monde. Et moi, j'en suis con,
des conceptions des
philosophiques,
ouais.
Des sensations, des impressions. Enfin, on est au cœur. Enfin, on est au cœur de quelque chose.
On est dans Miphos contre Soren, mais c'est un truc
de
malade.
C'est incroyable. C'est ça, exactement. On est en plein dedans, quoi. C'est enfin par rapport aux réflexions autour de Sens, l'autre jeu dont je suis l'auteur, on est en plein dans ces réflexions.
Excusez-nous, auditeurs qui ne jouent pas à Sens, on va arrêter les digressions dans ce genre-là. Ouais.
Mais bref,
je crois que j'allais me prendre un pain.
En tout cas, Pierre était pas content d'entendre.
Milaz n'était pas d'accord.
En gros, si tu veux, c'est la conception scientifique du monde et une conception qui est, allez, je vais dire, je lance le mot. Oui, je sais que t'aimes pas ça.
Ah, j'aime pas du tout ce que tu vas dire parce que je suis un scientifique pur et dur et je ne pense pas
d'accord,
que la vision.
Dogmatique.
Je pense pas que leur vision soit scientifique.
Donc c'est quoi alors?
Attends,
elle est mathématique.
Qui vient dire qu'il était scientifique là?
C'est Romaric qui l'a dit que votre vision était scientifique.
C'est vrai, j'ai tendance à confondre.
Et moi,
la
je suis pas du tout d'accord.
Le dogme. En fait, j'ai tendance à confondre la science et le dogme en fait et le calcul. Et tu as raison de me reprendre parce que la science c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que et ça,
la science,
c'est...
ça se fait par l'expérience. Donc,
Dixit, le premier podcast science.
Moi, j'ai envie. Ah, pardon, excuse-moi, Morgane, vas-y.
Non, vas-y.
j'ai envie de dire. Allez, je vais balancer un gros troll. Darky, sois prêt à me soutenir, hein, parce que je pense que je sais pas si je vais sortir vivant de la pièce.
Il va tomber au fond là.
Vous autres.
Vas-y.
Vous autres, comment
quand
il commence
jouez,
déjà
quand vous jouez en Val classique, vous êtes soumis au destin et vous vous persuadez. Que en acceptant les cartes, les jeux, etc., vous restez dans une expectative. Vous êtes là, ouais, mais peut-être que si je fais ça, je vais y arriver, etc.
Illusion.
Et finalement,
illusion. On est dans l'illusion.
Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion, exactement. Alors que tout est déterminé.
Non, ça me fait juste.
Vous, tout est déterminé par avance. Alors que nous, quand on joue en Austen, nous autres Austen, on veut déterminer par nous-mêmes la base, et ensuite.
Et toi, Pierre, tu crois que t'es pas soumis au destin? Toi, en tant que joueur, tu crois que tes capacités neuronales ne sont pas déterminées par des choses qui t'échappent? Non, mais tu te fous de ma gueule. C'est des poupées gigognes. C'est de la poupée gigogne que t'es en train de nous faire. C'est-à-dire, t'es en train de dire, oui, le destin, vous êtes soumis au destin de la source. Moi, je suis soumis au destin de la réalité. Mais dans tous les cas, ce n'est qu'une vision du monde.
D'accord. Et je joue par rapport à moi-même. Je joue contre moi-même. Quand je joue en Austen, je suis disposé par mes capacités mentales, etc. Je le sais. Je joue par rapport à ce que mes capacités me permettent et je vais essayer d'en sortir justement en n'acceptant pas le hasard des cartes.
Mais tu acceptes le hasard de ta vie à toi. C'est-à-dire que du coup, ce qui est incroyable, c'est ça.
Ok,
c'est que...
alors si on part dans cette optique-là, j'ai gagné un niveau par rapport à vous puisque vous, non seulement vous acceptez le hasard qui vous a fait vous-même et le hasard des cartes.
Ça, c'est faux. Parce que ça veut dire que tu es en pleine négation. Parce que si c'est nous qui avons raison, et que finalement le destin effectivement existe et que nous on est des créatures magiques avec beaucoup plus de mana que toi par exemple et que nous non mais qu'est-ce que t'en sais? C'est-à-dire que aujourd'hui on est dans une conception réaliste, voilà la vérité, vous êtes des réalistes. On est dans une conception réaliste du monde et aujourd'hui vous êtes dominants. Et donc du coup nous ceux qui croyons en la magie et tout, au miracle et à toutes ces choses et à la foi, c'est-à-dire moi je crois en la foi, je crois en la prière envers la source pour piocher le 10 de trèfle qui manque. Tu comprends ça?
C'est-à-dire
que je
suis croyant. C'est
tout à fait.
Le problème. C'est bien
tout
ça
à fait. Et en compétition, Rome, en compétition, tu n'es pas adapté. Tu es une espèce qui n'est pas adaptée en compétition.
Il faut savoir que la science, dans le fond, c'est une croyance et croire qu'il y a toujours quelque chose
au-dessus.
Nous
fais, en fait, tu es un darwiniste du Val, puisque tu nous dis que tu n'es pas une espèce adaptée. Donc, qu'en compétition, dans un milieu dit compétitif, et là, j'entends bien que par milieu compétitif, j'entends la société moderne actuelle. Tous ceux qui ne sont pas des réalistes vont crever.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Tu parles de Pierre.
Je parle de lui.
Enfin, vas-y Pierre, réponds.
Oui, donc clairement, oui. On parle de compétition, de val de compétition. Donc c'est avec des règles qui sont définies par notre monde, notre société, etc., etc. Mais oui. Mais bien sûr que ça. Mais forcément, moi,
en fait,
la différence qu'il faut que vous compreniez, c'est que je me mets dans le cadre de la compétition, puisque c'est le thème, c'est le sujet. Dans le cadre de la compétition, il y a des règles. On veut quoi dans la compétition? On veut un vainqueur, puis un second qui sera forcément vu comme moins bon que le premier, etc., etc.
Mais
et ça allant décroissant.
dans attention. La vie de tous les jours, tu crois mais vraiment Rome, qu'il existe Rome, des règles comme ça
dans la vie, moi je préfère quoi? Participer à un tournoi, me jouer contre des inconnus et être au sommet du podium, ou jouer contre toi, Rome, en Val Classique, jouer contre Max en Val Classique, jouer contre Darky en Val d'Ostein parce qu'on a le même trip, etc. Non, etc.
C'est pas ce que je voulais dire.
C'est une histoire de ressenti et de cadre. Ouais. Soit on met le ressenti avant le cadre, et à ce moment-là, oui, je suis d'accord que vous autres, avec plein de mana, comme vous dites, avec une barre de ki comme as, ouais. Effectivement.
On a un gros ki, nous!
Vous êtes avantagés, vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans le thème du Val, dans l'esthétique du Val, et oui, vous allez prendre votre pied là-dedans, et je dis pas que je prends pas mon pied quand je joue avec toi, Rome, quand on a fait notre partie tout à l'heure.
Val mythique.
Et même hier soir, quand on a fait nos parties en début de soirée, mais moi je me suis régalé. C'est seulement dans le cadre de la compétition, dans un cadre qui prend le pas sur l'esthétique, à ce moment-là, oui, je dis, vous êtes une espèce qui n'est pas adaptée.
En fait,
vous allez mourir.
La compétition, Pierre, la compétition darwiniste dont parlait tout à l'heure Morgane, elle suppose l'aléatoire. C'est-à-dire que la créature qui survit dans la théorie de Darwin, c'est celle qui aléatoirement se trouve la mieux adaptée. C'est-à-dire que la vie elle-même, la nature elle-même, si au sens de Darwin, donne raison aux joueurs de Val Classique et tort à ceux qui veulent se mettre dans un carcan, dans la pièce. C'est-à-dire ceux qui s'enferment, qui font leur concours de crachat.
Ils évolueront plus.
Voilà, en fait, c'est ça. C'est ceux qui s'enferment dans la pièce et qui font leur concours de crachat dans une pièce humainement définie vont... Darky ?
Bon, déjà, on est désavantagés dans ce débat, Pierre et moi, puisque, un, on écoute l'énoncé, hein, on se met bien dans le cadre de la compétition, et deux, on est obligé de faire sens avec nos arguments, puisqu'on défend l'aspect scientifique, alors que toi, tu pars dans...
Et la rigueur.
De deux, qui s'enferme entre nous deux, entre celui qui prend la voie de la science, tu vois, celle qui peut se remettre en question et qui ne va jamais s'enfermer dans une salle puisqu'elle est au courant qu'elle est peut-être dans la fausse salle, et toi qui dis, non mais vous êtes caché, vous êtes là-bas, vous... comprenez pas vraiment, alors que nous on croit, tu vois. Et le souci, c'est que toi, là c'est toi vraiment qui te persuade d'un truc et t'es complètement fermé à la possibilité. Enfin, on n'est pas, enfin, je sais pas si je fais du sens là, je sais pas si vous me suivez.
Oui, moi je te suis totalement, Dark.
Je te suis aussi, Dark. Hein, t'inquiète.
Avec attention,
pas de problème.
Putain, je suis déçu de pas être avec vous parce que là, une prise de parole comme ça se conclut par un drop mic. Là, on laisse tomber le micro et on se casse de la salle.
Tu peux déconnecter Skype, hein.
Et ben voilà, je me casse.
En fait, ce que tu es en train de dire, Darky, et moi j'entends parfaitement cet argument, c'est que l'argument de dire oui, vous êtes enfermé dans une pièce, etc., c'est pas valable parce qu'en fait, les uns comme les autres, ici, on est enfermé dans une certaine vision du monde et une certaine théorie. Et toi, tu dis, ma théorie à moi, au moins, a l'honneur de pouvoir être remise en question, là où la tienne est juste une religion auto-vérifiée. C'est-à-dire, en fait, tu nous refais l'argument de Karl Popper, qui est finalement que une véritable théorie est falsifiable.
Ah bah la définition même.
Et moi, à l'inverse, je te dis, le Val, c'est un jeu qui propose une vision du monde, et en tant que vision du monde, elle est infalsifiable parce qu'elle est appuyée sur des croyances, etc.
Je suis pas autant, je suis de l'avis de Romax, pas mal de choses. Là je m'en détache légèrement, hein, du côté croyances,
bien sûr.
T'es un peu
carrément, c'est à dire que tu crois pas, par exemple, toi tu crois pas qu'avec une prière tu vas pouvoir invoquer un 10 de pique.
Non.
Tu crois pas qu'avec une bonne prière à la source, tu vas pouvoir invoquer un 10 de pique ?
Non, je pense pas que la prière va le faire. La carte, elle est déjà là. Que ce soit le 10 de pique ou pas, c'est déjà fait. Après, est-ce que j'ai du plaisir à imaginer que peut-être je pourrais ? Ouais, ça me fait triper. Voilà. Mais je suis quand même prof de science. Je sais très bien que la carte, elle est déjà sur le top et que c'est pas ma prière qui va changer quoi que ce soit.
Bah moi, ça, par contre, j'y crois pas du tout.
Bah, si en physique quantique, hein, tant que t'as pas vu ce qui sort de la pioche, tu sais pas ce que c'est.
Ouais,
hein.
Non, mais je m'en brosse les de la physique quantique. Bon, non, je déconne. Hein,
ceci dit, donc je vous rappelle, hein, le tournoi,
la
compète, etc. Tout dépend de ce qu'on veut mesurer. Et la question, elle est là. Moi, en tant qu'auteur, j'ai pensé le Val, non pas pour l'Austen, mais pour le Val de Sinlos et d'Antares. Donc, moi, ce que je voulais mesurer, c'est pas uniquement ton taux d'intelligence, ni ta puissance de calcul. Moi, ce que je voulais mesurer, c'est aussi la chance que tu as au jeu, la psychologie, le bluff que tu es capable de développer,
on dit bien
ta résistance au stress.
On dit bien que l'Austen n'enlève pas le bluff.
Ta capacité à prendre des risques et ta capacité à t'amuser dans un univers aléatoire, etc. Et ça, c'est très important, parce que moi, je viens d'un jeu...
C'est pas incompatible avec la compétition, simplement, parce qu'à partir du moment où tu vas foutre un classement et que tu vas mettre quelqu'un en tête, s'il le mérite que par l'aléatoire, est-ce que c'est pas antinomique, quoi?
C'est incompatible avec avec la conception égalitaire et égalitariste de la compétition, voilà, telle qu'elle est défendue actuellement dans le sport.
Et je pense que c'est incompatible avec la définition que tu mets à un classement.
Mais oui, absolument. Et encore une fois, dans le sport tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Mais par contre, dans la vision que j'ai du Val, comme jeu reflétant une certaine vision du monde et une certaine réalité, si tu veux, c'est pas du tout incompatible avec mon idée de la compétition. La compétition dont il est question dans le Val, c'est la compétition qu'on est en train de faire en ce moment, autour de cette table, avec nos atouts. Est-ce qu'on est beau? Est-ce qu'on est moche? Est-ce qu'on est roux ou est-ce qu'on ne l'est pas?
Oh mon dieu!
Est-ce qu'on est troll?
Oh l'attaque de pique sur le cœur!
Je veux savoir que.
Combo!
Troll Maric!
Pour répondre au troll, Romaric, ce que t'appelles un tournoi, moi j'appelle ça une animation de petits cousins, quoi. Tu vois, quand je fais jouer mes petits cousins ensemble et mes petites sœurs. Enfin, j'ai pas de petite sœur, mais mes petites cousines, etc.
Donc pas dans la concupiscence.
Et tu peux pas dire qu'il y en a un qui va gagner. Ils vont être déçus, évidemment. Donc voilà, alors, tout le monde a gagné, c'est le tournoi, tout le monde est heureux, etc. Parce que tu peux pas les confronter à la réalité qui est il y a des gagnants, il y a des perdants, quoi.
Ça paraît comme une boutade, mon histoire de roux, etc. Et parce que, évidemment, je faisais référence à Darky qui est roux. Mais en fait, réfléchissez bien.
Ah, mais ça
bien.
Regarde pas les auditeurs.
Et vous savez qu'il y a des gens qui naissent avec un vagin et d'autres qui naissent avec un pénis. Et qu'en fonction de ça, en fait, leur position sur le Val n'est pas la même. Par exemple, je veux dire, dans la réalité, en fait.
Attention, il y a une invocation qui se prépare là.
Dans la réalité, en fait, il y a des vraies inégalités entre les gens. C'est-à-dire que la compétition dont on parle dans la réalité, elle n'est pas égalitaire. Elle ne se fait pas en salle. Vous comprenez ça?
Quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à obtenir une égalité, à obtenir des conditions opératoires parfaites d'égalité.
Exactement. La compétition dans le Val. Que j'ai voulu symboliser dans le Val, c'est une vision du monde comme collant à ma vision personnelle de la réalité. On n'est pas tous avec le même portefeuille, on n'est pas tous avec le même trèfle, on n'est pas tous avec le même cœur, on n'est pas tous, etc. Mais voilà.
J'ai beau te défendre, tu es en train de dire qu'en fait, le Val que tu as écrit ne se prête pas à un tournoi dans le sens que la société actuelle entend.
Exactement. Le Val tel que d'Antares se prête à un tournoi tel que nous le disputons en ce moment dans la réalité.
Où en fait, le premier au classement n'est pas le meilleur joueur parmi tout cela. Le premier au classement est celui qui a été le meilleur joueur et l'élu de la source.
Exactement. Et en fait...
L'élu de la source. Attends, t'es en train de faire passer quelque chose d'atroce pour quelque chose de noble. Pour reprendre ta...
Non, j'ai jamais dit que c'était noble.
Non, je parle à Romaric, là, excuse-moi. Mais par contre, pour reprendre ton idée de sprint, là, Romaric, ce qu'il veut faire, c'est faire en sorte que les coureurs achètent leurs chaussures et que ce soit le plus riche qui a acheté les meilleures chaussures. Qui gagne.
Et tu crois que ça se passe comment en vrai?
C'est celui
qui a réussi à se doper, à acheter les meilleurs et à avoir le meilleur tenu, les meilleurs trucs. Et les histoires de combinaisons pour la natation qui a foutu une merde sans nom.
Et donc tu estimes que c'est lui qui doit gagner?
Vous rendez compte? Aujourd'hui, les handicapés qui utilisent des prothèses pour courir vont plus vite que les véritables athlètes. Ça pose des tas de questions sur. Ce que je veux dire par là, c'est. Je dis juste que
le classement qu'on a à la fin n'est pas forcément le. Je dis juste qu'en fait, la façon dont on va du coup juger ces personnes-là. J'essaie d'être clair dans mon esprit. Je dis juste que le classement qu'on va obtenir à la fin n'est pas en corrélation avec ce qu'on aimerait bien obtenir. Si tu veux un classement qui les détermine réellement par rapport à leur capacité, alors ce qu'on va obtenir n'est pas adéquate, ça ne va pas être ça en fait. Il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, il n'y a pas que ces personnes-là qui rentrent en jeu. Et même si on tend vers, moi je pense que la limite, même si la limite de cette fonction est zéro, je pense pas qu'on l'atteindra, c'est une limite.
Mais Max, parce que tu es en train de penser en termes de critères universels, sauf nous, on te dit pas qu'on veut faire un classement universel et que le meilleur gagne, c'est pas ça du tout. Tournoi, il y a des critères, on veut évaluer une caractéristique, peut-être deux, peut-être un certain nombre, mais pas tout.
Moi, je voudrais vraiment expliquer pourquoi est-ce que je dis ça, parce que vous partez dans un débat...
Excuse-nous, je suis désolé,
mais moi, tout ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, il y a ce qu'attendent les joueurs qui font de la compétition Val, et il y a ce qu'en attend l'auteur. Là, j'essaye de présenter ma vision d'auteur, en fait. De dire, moi, le Val, quand je présente le Val à des gens, je dis c'est la réalité. Ce personnage-là, c'est Gandhi. Tu comprends? Enfin, tu vois, le truc, c'est... Je dis, voilà, ce personnage-là, c'est Gandhi. Quand je présente le carreau, je dis, ça, c'est Mediapart sur Jérôme Cahuzac, par exemple. Mais non, mais c'est, et regardez la vidéo sur Trick Track. Je ne dis à aucun moment, je ne dis pas, enfin, pour moi, nous sommes sur le Val. Et si tu connais ses sens, Pierre, enfin, tu verrais que c'est toujours l'esprit de mes jeux, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit que nous n'étions pas sur le Val. Moi, j'y crois, en fait. C'est ça qui est ouf.
Je te conteste pas ça, Romain. Moi, je me replace juste dans le contexte du tournoi où on va juger certains critères. On va faire un classement sur des critères.
Et c'est ce que je te dis.
Et est-ce que, oui, mais les joueurs.
Demain, l'Église catholique revient au pouvoir. Oula. Les gens rationnels qui défendent, qui défendront l'Osten ne seront plus les mêmes. Et tu vois, enfin, en fait, c'est.
Tu veux dire qu'on me mettra au bûcher, c'est ça?
En fait, je pense.
De toute façon, ce sera Darky d'abord, il est roux. Hein.
C'est pas ça. C'est pas. Non, mais ça. Enfin, honnêtement, d'être beau ou d'être laid quand tu commences ta vie, ça va tout changer sur ton sur. Enfin, et beau et laid, je vous rappelle que ce sont des déterminismes qui sont sociaux. C'est-à-dire qu'on le beau, la laideur, la beauté, tout ça, c'est ça que j'avais envie de dire avec le Val. Donc, la compétition dans le Val et celui qui est premier au Val, c'est pas forcément gentil. C'est pas forcément celui qui est le meilleur. C'est-à-dire que le Val, tel que vous le pratiquez, je le répète, et là, c'est la boucle est bouclée avec ce que je disais au début, c'est le Val de Caro. C'est le Val des scientifiques, des matheux.
En même temps, il nous a été légué par les figures de Caro, le Val, donc on peut
c'est
jouer
le Val du
ça.
Soleil que vous pratiquez. Le Val de Sten, c'est le Val du Soleil. Moi, le Val tel que je l'ai conçu, c'est le Val des étoiles. Et ça change tout.
Fais gaffe là-dessus.
C'est ça le truc en fait.
Moi je trouve ça un peu trop.
Max.
Le problème c'est que moi je peux pas te répondre Rome parce que oui, voilà, à ce moment-là on a des visions différentes, on cherche pas la même chose dans le jeu, etc.
Et exactement.
Mais dans ce cas-là on peut pas parler de compétition ni de tournoi. J'ai envie de dire la compétition, le tournoi c'est bassement matériel par rapport à ce que tu veux non, mettre alors, dans ton jeu Rome. Ce cas-là c'est un peu c'est facile de m'attaquer sur ce biais-là et de dire
alors, il faut
ah mais
pas
toi t'es un carreau accompli
et tu penses
dans ces termes-là et donc forcément tu peux pas comprendre là.
C'est pas ce que je dis. Ok, alors là, vous me prenez totalement sur ce que je veux dire.
Bah ouais, explique-toi un peu plus clairement.
Ce que je veux dire, c'est que je pense que les gens qui recherchent la compétition dans le Val normal, ils ont une vision du monde qui va être plus proche de celle de l'auteur. C'est-à-dire non compétitive au sens. Et que les gens qui. Mais je ne dis pas que je
l'ai mis.
Je ne porte pas de jugement. C'est-à-dire que. Alors, si, en tant que Romaric, j'en porte un. Mais je veux dire, en tant qu'auteur, si j'ai mis la variante de Sten dedans, c'est pour permettre ce débat. Tu comprends le truc? C'est que et donc du coup, je dis pas ignoble connard qui pense machin truc. Non. Pour moi, par exemple, quand Darky disait le monde, il est bon ou il est mauvais, ça, j'y crois pas. Je suis Wittgensteinien en fait. C'est-à-dire que je pense que aucune pratique n'est en elle-même bonne ou mauvaise. C'est-à-dire que je suis pas en train de, je suis juste en train de te mettre devant certains de tes déterminismes. Tu vois, de dire, regarde, tu penses ça parce que tu es dans un certain déterminisme. Et moi, je pense ça parce que je suis dans un certain déterminisme. Comme le disait Darky tout à l'heure, il m'a très justement renvoyé dans les cordes tout à l'heure en disant, oui, mais toi aussi, tu es victime d'un déterminisme, etc.
C'est ça, c'est juste qu'eux, ils pensent en avoir. Enfin, ils pensent, sans aucune coïncidence, eux, ils pensent qu'en Austin, ils vont avoir conscience du déterminisme en place et qu'ils pourront plus efficacement lutter contre.
Voilà. Mais le truc, en fait, c'est ça. Je pense que.
Ah oui, c'est ça, oui, tout à fait.
La compétition. Et on a la boucle est bouclée. Encore une fois, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que la compétition, c'est on ne juge pas les mêmes choses quand on est en Austen ou quand on est en Antares. Mais la compétition, elle existe.
On juge soit le fait d'être capable de jouer avec ce déterminisme et de jouer comme ça, et de l'autre côté, en Austen, on va jouer la capacité du joueur à transcender le déterminisme des cartes.
Voilà, tout à fait. Alors la question après, c'est lequel est le plus compétitif? Et là, paf.
Alors là, ça
explose.
Et là, ça dépend de ta définition.
Et voilà, ça dépend. Et c'est ça. Et c'est là que je voulais en arriver. C'est là que je voulais en arriver. C'est qu'en fait, après, lequel est le plus compétitif? Eh ben, ça n'a pas de sens comme question, en fait.
Si, ceux qui peuvent répondre à la question, c'est ceux qui.
Chacun peut répondre de son côté, en fait.
C'est ceux qui joueront le Val au moment présent où on leur posera la question. Et chacun aura.
Je pense qu'il faut tester. Je pense que maintenant, on va agir en scientifique. Et on va organiser des tournois, on va demander aux gens ce qu'ils venaient chercher, est-ce qu'ils ont été contents de ce qu'ils ont obtenu, et ensuite on fera un retour d'expérience et on arrêtera de théoriser et on aura quelque chose de clair.
Et puis après on fera des stats et on les donnera à Darky et puis il nous tirera des courbes.
Non, on les donnera pas à Darky, on les brûlera les stats.
J'avais juste une question, Romaric.
Darky.
Demain j'organise un tournoi de lancer de dés, et chacun fait 3 lancers et celui qui a le plus haut score arrive au gagnant du tournoi. Quoi. Ça te plairait comme tournoi ça?
Non, c'est nul.
Pourtant, tu sais que c'est pas totalement aléatoire de balancer un dé. T'agis vachement. Enfin, c'est toi qui détermine. Enfin, il y a des gens qui. T'as moyen de.
Non, mais en fait, t'en as qui sont élus de la source et leur dé va tomber sur
ça. Hyper réducteur. Donc, c'est du troll pur et net.
Non, 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 attends. Non, la question est intéressante. Elle doit être traitée. Ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'idée, c'était de créer un jeu dans lequel la dimension aléatoire soit entre, enfin si tu veux, j'ai tous les réglages du jeu ont consisté à essayer de faire en sorte que la dimension aléatoire et la dimension rationnelle, je sais pas comment le dire autrement, dogmatique, scientifique, enfin je sais plus du coup, Maxime m'empêche de, je sais plus comment dire, Max, je suis désolé, mais tu
mathématique
vois, le calcul, que le calcul et le hasard soient dans une relation limite, tu vois. Le problème de ton jeu de dés, c'est que on voit bien que c'est que du hasard. Parce que la main, tu vois, le déplacement de la main et tout, personne n'allait.
Mais le pire, c'est que non, en fait, c'est pas uniquement du hasard. Et là, Darky, son exemple est
bien
choisi.
Oui, mais tu vois, il y a 1% de calcul.
Tu pourras être capable de déterminer quelle est la personne qui sait le mieux optimiser son lancer de dés avec son mouvement de main. Est-ce que c'est un grand intérêt?
Oui, mais Ron.
Parce que c'est un grand intérêt de savoir qui est plus fort pour jouer au Val, quelque part non plus. C'est juste pour le fun, quoi.
S'il y a des gens qui y trouvent du fun, et bah, qu'ils y jouent, alors je te dé.
Mais. Je sais pas, prenez un tournoi de pierre, feuille, ciseaux, il y en a aux États-Unis.
Ouais.
C'est un peu aléatoire aussi.
Ouais, il paraît que non.
Non, ça l'est pas tant que ça. C'est une question d'analyse. C'est aussi des analyses, des maths et tout, mais bon.
Enfin, je veux dire, je sais que ça a un rapport avec le livre. Ah, je fais. Écoute, mais je dis, je veux bien que ça ait un rapport avec les enfants du soleil, le propos avec les miroirs et etc. Mais enfin, on remplit tous un classement de forces célestes sur le forum. Hein. Donc quelque part, on est tous aussi dans cette logique, d'avoir le plus gros numéro.
C'est une autre compétition du Val, ça, pour moi.
C'est ouais.
Parce que les règles du tournoi sont pas les mêmes que celles d'un tournoi tel qu'on l'a défini dans ce podcast, je pense. Ça, c'est le tournoi céleste qui a ses propres règles qui sont clairement définies. C'est un autre tournoi du Val.
Ouais, c'est surtout aussi une manière aussi de se rencontrer, de. Il y a plein de choses. Enfin,
c'est aussi un kikimetteur.
Je nie pas que c'est aussi. Il y a aussi un rapport humain et il y a une question de fiction. Hein, on est bien d'accord avec ce classement-là. Mais on a bien établi qu'un tournoi, c'était un classement pour savoir lequel était en haut, lequel était second, lequel était troisième. Qu'est-ce que le classement des forces célestes sur le forum, si ce n'est un classement où on sait qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième?
Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où ça introduit des enjeux. On fait un classement pour créer de l'événement, pour créer du jeu, pour créer des rencontres qui soient différentes des parties de val habituelles, etc. Moi, honnêtement, que je sois second ou dixième, mais que je puisse jouer Mercure, mais je tripe tout autant. Hein, j'en ai strictement rien à foutre d'être étiqueté numéro 2. Je pense pas.
Morgan, t'as pas de micro.
Pardon. Je dis oui, je sais bien, on est bien d'accord, mais enfin, il existe, tu vois, on te prend de la tête depuis plus d'une heure sur le sujet, et quoi qu'on en pense et quoi qu'on s'oppose, il existe et on en fait, on l'utilise tous.
Oui, parce qu'il faut bien ordonnancer les éléments de l'univers.
C'est vraiment passionnant ces questions. Moi, franchement, je me lasse pas de discuter de ça avec vous. C'est vraiment passionnant. Mais il y a un truc qu'il faut bien dire parce que j'ai l'impression que c'était pas clair dans mon propos. Je ne me positionne pas contre votre vision. C'est juste que je suis passionné et que quand j'en parle, quand je disais tout à l'heure, on est Nero, etc. C'est juste pour pointer du doigt un critère. En fait, un critère physique qui fait que on est avantagé ou pas. Et en l'occurrence, Roux, ça ne pèse en rien dans la balance. C'est-à-dire que il me semble pas. Sauf
non,
à une
non,
époque.
De toute façon, on sait très bien que Darky, de toute façon, il sera désavantagé dans la vie comme Roux. Hein. Donc, partant de là.
Non, mais à une époque, on les brûlait. Quoi.
Je pense pas que les Osteiniens soient contre ça. La preuve, ils acceptent la part de hasard du jeu.
Tu veux pas pousser encore un peu plus loin, Romaric? On est à ça du point Godwin, quoi. On va finir.
Non, non, mais ce que je veux. Non, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux,
monsieur.
Ce que je veux dire, c'est que l'aléatoire et la société dans laquelle on se positionne, c'est super important. C'est-à-dire que c'est pas. Et c'est ça aussi que j'avais envie de dire en tant qu'auteur dans le Val. Et de voir des gens qui vont jouer en Austen et qui vont se mettre la race en Austen, j'ai peur, au final, et le voilà la vraie raison, que cette variante ultra calculatoire qui plaît à notre société actuelle occulte et éclipse totalement la vision valienne qui était la mienne. Et là, voilà, vous voulez qu'on parle de vive voix. Et c'est ce que je vais vous dire. C'est que ce qui me fait très peur, c'est qu'au final, votre version du Val l'emporte totalement sur l'Antares classique, parce que les gens ils s'y mettront beaucoup plus facilement, et qu'au final, on oublie que le Val, c'était un jeu d'auteur qui voulait dire tout ça. Un peu comme les gens qui voient le Monopoly aujourd'hui comme un jeu d'affreux capitalistes et qui ont oublié que ce jeu était en fait la contestation, une contestation. Et voilà ce qui me fait très peur.
Le problème, en fait, c'est la question de la performance. Le culte de la performance.
Mais oui. Oui, c'est ça.
Mais pour ça, Rome, il faut faire des podcasts sur le thème. Il faut dire, moi, en tant qu'auteur, je voyais autre chose. Et voilà, ça sert à ça aussi.
Oui, mais en même temps, j'ai pas envie.
Il a pas envie que la société pervertisse. Non, je vais trop loin.
J'ai pas envie non plus de tuer dans l'œuf les initiatives de gens qui ont envie de faire de la compétition au carreau, j'ai envie de dire, donc en Ostène, du Val des Étoiles. Seulement, il faut pas oublier que le Val des Étoiles a été conçu comme un jeu de trèfle. Et c'est ça le...
Mais à ce moment-là, est-ce que la question se pose vraiment en Rome ? Puisque de toute façon, comme il y aura toujours des gens comme Darky et moi, qui aimons le côté compétitif carreau, comme tu dis, et puis des gens plutôt comme toi, comme Max, comme Jeff, qui aiment bien jouer en classique, qui aiment bien jouer en narratif, etc. Il y en aura toujours, hein, donc il y aura toujours une espèce d'équilibre qui se créera.
Je pense.
Donc
j'espère.
Au final,
chacun joue. Je dis que je préfère l'Antares, mais moi, on me propose un tournoi dans Ostène, j'y vais quand même. Hein, faut pas délirer non plus.
Hein. Ah, voilà, c'est
le
ça.
Scientifique qui revient.
Non, c'est parce que j'ai moins de plaisir, mais je le ferai quand même parce que je rencontrerai des gens et je ferai des parties que je pense que j'apprécierai. J'espérerai juste ne pas tomber trop souvent sur des parties jouées d'avance. Pardon, vas-y, excuse-moi, Darky.
Non, vas-y, je te coupe pas.
Non, je dis ce qui m'arrive en Ostène, est-ce que même si ça m'arrive en Val classique, comme tu l'as très bien dit, je n'en ai pas conscience quand ça m'arrive en Val classique. Et moi, je me fais pas chier à analyser après la partie de c'était plié d'avance. Du coup, j'ai quand même le plaisir. Et vu que je me fais pas chier à analyser, excusez-moi pour mon vocabulaire, vu que je m'embête pas à analyser après, j'ai pas eu conscience. J'ai juste pris mon trip. Alors qu'en Ostène, j'en ai tout de suite conscience de si la partie allait déterminer ou pas. Moi, ça m'ennuie. Mais je ferai quand même un tournoi en Ostène.
D'accord.
Pour le pourcentage de parties où je serais surpris et où je triperais. Parce que d'accord. Je tripe des fois en Ostène contre un.
Moi, j'aime bien jouer en Ostène contre Darky et Pierre parce que je sais que sinon ils s'ennuient.
Non, et... ça c'est faux, Rome. C'est faux, regarde le.
Darky se fait vraiment chier quand on joue pas en Ostène.
Ah oui.
Ouais. C'est moins palpitant pour lui, vraiment. Bah, la dernière fois, on l'a affronté en tant que Jupiter, on a joué sans Ostène. Enfin, je te jure, il avait aucun. Enfin, il avait pas. Le Val mythique n'était pas du tout de la même intensité que ceux qu'on a joués ce week-end. Où là, vraiment, il y avait du Val mythique, mais incroyable. Parce qu'en fait, lui, il jouait. Oui, j'ai perdu, mais c'est normal parce que j'ai pas eu de bol ou parce que j'étais dans telle pénurie. Et voilà.
J'étais pas abattu pour avant. Pour autant, hein, je suis pas du tout parti défaitiste. J'ai joué du mieux que je pouvais. Et puis à la fin, je me suis rendu compte que j'ai joué du mieux que je pouvais. Et ça n'a pas spécialement changé grand-chose. Mais c'est dans mes tripes. Hein, ça me prend pas au cœur ça me prend moins au cœur de jouer à une partie comme ça. Il y a moins d'enjeux, je trouve. Et juste pour revenir sur ce que tu disais avant, t'as pas envie du coup de confronter les gens qui veulent faire du compétitif avec ton jeu qui n'était pas designé pour le compétitif. Je voulais juste te remercier pour ça parce que pour revenir au documentaire que j'ai vu sur Super Smash Bros, Nintendo a pris de haut tous ceux qui voulaient en faire de la compétition et ils ont tout fait pour empêcher les tournois de Super Smash Bros. Au final, ils y ont réussi. C'est-à-dire qu'on
c'est pas mon cas, hein.
Sur la scène compétitive et puis le nouveau jeu qu'ils ont sorti l'empêche complètement. Ouais, c'est pas bon, on est d'accord, ça fait pas de pub quoi.
C'est pas mon cas, c'est-à-dire que je veux pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des tournois en Ostène qui aient lieu, mais que les gens qui le fassent connaissent le propos du Val et se disent l'auteur de ce jeu est un con. C'est-à-dire que je veux que ces gens se disent l'auteur du Val est un con qui ne voit pas le potentiel, etc.
Pensez à moi.
Voilà, c'est ça exactement. Mais n'oubliez pas le propos initial du Val. Et ça je trouverais ça très fort. C'est-à-dire du coup ça serait vachement sympa.
Écoute, mais Rome, je t'entends. La prochaine fois que j'organise un tournoi de Val sur Paris, avant de jouer dans la salle, on placardera ton portrait sur un mur.
Ce mec est un con.
Voilà.
Voilà, on fait un vote en début Antares ou Westheim.
J'ai mis la variante de Sinlos et la variante narrative en opposition l'une par rapport à l'autre dans le Val.
Stein, tu veux dire ?
Et j'ai mis la variante de Sinlos aussi, qui est une variante complètement aléatoire que personne n'utilise.
Ouais, je l'ai déjà utilisée.
Tout ça, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. J'ai fait vraiment ces choix. Aujourd'hui, quand je vois les discussions qu'elles amènent, je ne regrette absolument pas ces choix. C'est tout ce que j'ai à dire. Et peu importe qui a raison et sur lequel est le plus compétitif, ce qui compte, c'est que ce débat ait lieu et que cette discussion ait lieu. Parce que je pense qu'elle fait prendre conscience à plein de gens qu'ils avaient un parti pris qui n'allait pas forcément de soi. Et rien que ça, déjà, c'est beau. De remettre en question les évidences et de ramener la curiosité, en fait.
Et sur France Culture, nous proposerons bientôt un podcast sur la performance et la société actuelle.
Bon, alors, je pense qu'on peut laisser nos auditeurs...
Je vais quand même dire un mot à Pierre et Darky. Après ce podcast, effectivement, je suis d'accord avec eux. La variante de la plus compétitive,
oui.
Effectivement, c'est le Stain.
Voilà.
Oui, il faut bien que je te le concède, hein, puisque vous avez réussi à me faire changer d'avis sur ce point-là. Il faut que je vous le dise quand même, qu'on n'ait pas juste l'impression de se prendre le chou pour rien. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous.
Maxime,
je concède aussi que dans la définition de la grande majorité de la société actuelle, non mais soyons clairs, moi je suis précis dans mes définitions, dans la définition de la compétition telle que la majorité des gens l'envisage, l'Austin est très clairement la variante la plus appropriée.
Et je rejoins Maxime et Morgan également pour dire que c'est le cas. Mais...
Bon, bah, tout se finit bien. Vous êtes d'accord avec nous. On est d'accord avec nous.
Sur ce.
Allez, à bientôt tout le monde pour un prochain podcast. À bientôt. Salut.
Salut.